18h, 20h.
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour ce 18-20. Au menu de ce samedi, 2 heures d'information avec les grands journaux de Fabienne Lemoal et de Sophie Tussaud, avec du sport, l'OM et l'OL dans la tourmente, les médias avec Patrick Sabatier qui revient avec une nouvelle version de son avis de recherche et des dossiers. Gaspard Ganzer, il est candidat à la mairie de Paris au municipal de 2020. Il a également été le conseiller communication du président Hollande pendant l'affaire du casque et du scooter et l'ami d'un jeune ministre de celui-ci, un certain Emmanuel Macron. On attend son analyse sur les deux cas et il ne fait pas dans la langue de bois. La lutte des classes est un film à l'affiche qui fait beaucoup parler. Il met en scène un couple de gauche qui habite une banlieue populaire à côté de Paris. Ils ont mis leur fils à l'école publique, sauf que tout change quand il découvre qu'il est le seul blanc de sa classe et qu'il subit une mise à l'écart des autres. Du coup, contre leurs principes, ils l'inscrivent dans le privé à Paris. Tout part d'une histoire vraie, c'est ça qui est passionnant, celle du cinéaste Michel Leclerc. Il sera à ce micro. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous et à chacun. Vous pouvez bien sûr réagir à ce grand journal du soir en publiant un commentaire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 18h précise. Bon week-end à tous. Le journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
À 2 jours des premières restitutions du grand débat, encore des manifestations de gilets jaunes avec des cortèges un peu plus clairsemés à Paris, faute de défiler sur les Champs-Élysées. Ils se sont rassemblés dans le quartier de la Défense, nous serons sur place. Non Brexit, slogan de la manifestation des professionnels de la montagne à Bourg-Saint-Maurice ce matin. Ils redoutent que les Anglais désertent les stations de ski. Et puis le 110, c'est le numéro qu'il faut composer pour donner aussi d'action. La recherche a besoin de vous pour trouver de nouveaux traitements aux malades.
Europe 1. Alors que c'est lundi que seront présentés au Grand Palais à Paris les principaux thèmes du grand débat, les Gilets jaunes se mobilisent pour ce 21e samedi.
Après Avignon, la semaine dernière, ils avaient choisi Rouen comme point de rassemblement national. Près d'un millier de personnes sont descendues dans la rue en Normandie avec quelques heures entre forces de l'ordre et manifestants. Manifestation aussi à Paris. Et là, à défaut de pouvoir manifester sur les Champs-Élysées, ils ont choisi un autre lieu symbolique, le quartier des affaires de la Défense. Ils sont encore rassemblés sur le parvis au pied de la Grande Arche, Théo Manval.
Absolument, Fabienne, rassemblée à présent au pied des tours Total, Engie, Société Générale, sous l'arche aussi de la Défense et sous forte surveillance policière. Lieu de fin de manifestation symbolique, vous le disiez, pour protester contre l'évasion fiscale. Thibault est ambulancier, venu de l'Oise.
Quand on voit que c'est estimé entre 80 et 100 milliards d'évasion fiscale annuellement, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, c'est cette hypocrisie à nous dire bah non, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça parce que ça coûte trop cher. Nous, on demande toujours la même chose en fait. On demande la baisse des taxes sur notre facture d'électricité, les carburants. Et si on se donnerait un peu les moyens, tous ces milliards de là, on pourrait les récupérer pour faire baisser ces taxes.
Et ça a été le thème mis en exergue aujourd'hui par ce cortège qu'a traversé aussi Neuilly-sur-Seine avec des slogans comme non aux riches, oui aux riches. Mais on a aussi entendu des mots d'ordre sur l'écologie, Fabienne, ou sur l'enseignement avec de nombreux profs dans les rangs à l'image de Magali.
Moi je travaille à Saint-Denis. Je veux montrer que les profs se battent pour leurs élèves et qu'ils considèrent que la société actuelle n'est pas une société qui permette à n'importe quel enfant d'avoir une éducation décente qui mène à la réussite.
Et si quelques-uns ont en tête la date de lundi où le Premier ministre doit présenter les premiers enseignements du grand débat, comme souvent quand on pose la question, le sentiment principal à cet égard reste l'indifférence.
Je m'attends à rien du tout, du tout, du tout. C'est une belle opération de communication et ça a fait ralentir le mouvement quelques temps. Ralenti mais pas tué.
C'est quoi ce que vous appelez de vos vœux?
Le RIC, c'est la base. Remettre le pouvoir entre les mains de la population française déjà pour commencer. Et après, advienne que pourra en fait.
Voilà, et la dispersion se fait pour l'heure. Petit à petit, des drones des forces de l'ordre continuent de survoler le parvis de la Défense.
Théo Manval, pas de décompte officiel encore pour le moment sur ce 21e samedi de mobilisation. Mais à 14h, le ministère de l'Intérieur parlait de 6300 manifestants en France, dont la moitié, 3100 à Paris.
Il est temps que cette situation s'arrête.
Commentaire de Jean-Yves Le Drian à propos du feuilleton sans fin du Brexit à l'issue d'un G7 des ministres des Affaires étrangères réunis à Dinard en Bretagne. Il importe que les Britanniques nous indiquent très vite comment ils comptent sortir de cette crise. Voilà ce qu'ajoutait le chef de la diplomatie française alors que Theresa May a demandé un nouveau report du Brexit à Bruxelles hier, pas avant le 30 juin. Image étonnante en tout cas aujourd'hui, ce matin à Bourg-Saint-Maurice en Tarentaise, des pisteurs de ski déguisés en Horse Guards anglais pour manifester manifester contre le Brexit. C'était à l'occasion du départ du dernier Eurostar de la saison vers Londres. Un rassemblement pour dire surtout combien les touristes anglais sont indispensables à l'économie locale. Écoutez Jean-Marc Silva, le directeur de France Montagne.
On l'a déjà vécu puisqu'il y avait une dévaluation de la livre dans les années 2000 de 20%. Et on avait vu quand même les Anglais continuer à venir dans nos stations françaises. Mais ils ont complètement changé leur façon de consommer la montagne. Des gens qui prenaient des cours particuliers ont sans aucun problème pris des cours collectifs. L'apéritif, la presqu'i, on vient pendant l'happy hour. Donc ils ont cette capacité toujours à s'adapter en fonction de leur niveau de vie. Mais ils sont là, ils sont présents. Mais il faut faire attention. On espère que tout ça ne va pas aller jusqu'à ce qu'ils ne viennent plus dans nos territoires. Donc on croise les doigts, on leur dit au revoir et see you soon, my friends.
Jean-Marc Silva, en anglais, le directeur de France Montagne, avec Rémi Pierre. Notez que depuis le 30 mars, donc il y a une semaine, des passeports britanniques ont été mis en circulation sans la mention Union européenne, bien que le Brexit ne soit pas encore entré en vigueur. On en reparle dans le journal de 19h.
Et puis surtout, si le Brexit n'entre pas en vigueur, on verra bien ça. On ne le répétera jamais assez, c'est le 110 qu'il faut composer pour donner au site d'action.
Mobilisation tout le week-end sur Europe 1 pour bien vous expliquer pourquoi la recherche et les malades ont besoin de vous, car la recherche innove sans cesse, avec l'idée de rendre moins pénible aux patients qui doivent être en permanence sous traitement la prise de médicaments. Mélanie Gomez.
L'innovation la plus avancée, c'est le traitement injectable contre le VIH. Très prochainement, deux labos devraient le commercialiser et ça, pour les patients, ce sera révolutionnaire puisqu'une seule piqûre intramusculaire, une fois par mois ou même tous les deux mois, pourra remplacer plusieurs semaines de médicaments. Ces injections devraient être disponibles d'ici 2020 ou 2021 au plus tard et selon le professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, il y aura une vraie demande.
C'est vrai que ça révolutionne un petit peu les thérapeutiques parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir des comprimés à prendre tous les jours. Il y en a qui veulent que ça soit discret sur l'univers du travail, par exemple. Nous, à Tenon, on teste depuis 3 ans les deux injections. L'un des patients qui est navigant sur une compagnie aérienne étrangère, lui, il met ça dans son planning de vol. Il vient une fois par mois ou une fois tous les deux mois dans le service. Et comme il dit, le VIH, je ne m'en occupe pas le reste du temps.
Enfin, il y a une autre piste prometteuse pour améliorer la vie des patients en cours de développement. Un implant, une sorte de bâtonnet en forme d'allumette qui se place sous la peau, un peu comme les implants contraceptifs. Et avec ça, on irait encore plus loin, puisque ça permettrait de remplacer les comprimés d'antiviraux pendant environ 6 mois.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
Europe 1. À suivre, le Salon des seniors ferme ses portes ce soir à Paris. Des seniors qui sont de plus en plus nombreux à continuer à travailler, même une fois qu'ils ont pris leur retraite.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 18h08, la suite du journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Alors qu'on est en plein débat sur la réforme des retraites avec la question de l'âge du départ, un autre chiffre interpelle.
500 000, c'est le nombre de seniors qui continuent à travailler une fois à la retraite pour compléter leur pension, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Et de nombreux stands leur étaient consacrés au Salon des seniors qui ferme ses portes ce soir à Paris avec des plateformes de recrutement qui leur sont spécialement dédiées, Maud Descamps.
Lorsque Mario, ancien ingénieur, a pris sa retraite il y a tout juste 2 mois, il savait que très vite, il devrait trouver un emploi à temps partiel pour maintenir son niveau de revenu. Il s'est donc lancé dans la recherche de petits boulots.
J'ai un crédit en cours, donc pour lisser toutes mes dépenses, j'aurais besoin de travailler 3-4 mois par an. Moi, si les industriels ont des besoins par rapport à mon profil d'ingénieur électricien, ça m'intéresse. Et après aussi avec les particuliers, parce que je suis un grand bricoleur et donc je peux proposer mes services du jardinage, du bricolage, de l'électricité bien sûr.
Des candidats comme Mario, Valérie Gruau envoie tous les jours s'inscrire sur sa plateforme qui met en relation employeurs privés ou entreprises et retraités candidats. Avec la hausse de la CSG et la baisse du pouvoir d'achat, ce complément de revenus est devenu vital pour certains.
Ils estiment que c'est plus compliqué aujourd'hui, c'est plus difficile, parce que les charges sont un peu plus élevées aussi. Pour certains, le passage à la retraite engendre une perte de revenus assez conséquente. Donc voilà, ça passe par un retour obligatoire quasiment pour certains sur l'emploi.
Des emplois dans la comptabilité, l'aide administrative ou encore la garde d'enfants qui permettent à ces retraités de gagner en moyenne entre 550 et 900 euros par mois.
Maud Descamps avec Nicolas Bidard.
C'est le début des vacances de printemps pour la zone B.
L'occasion donc de partir en congé et si vous voulez avoir bonne conscience et ne pas polluer, mieux vaut prendre le train que l'avion. Une option que privilégient certains comme dans les pays nordiques et qui gagne du terrain en France pour le bien de la planète, Claudia Bertram.
Sur le quai de la gare, Florence, 47 ans, attend son train pour la Bretagne. Comme pour tous ses trajets en France, hors de question pour elle de prendre l'avion.
Ça fait partie de toute façon de ma vie d'avoir une empreinte relativement légère. J'ai mon permis de conduire, mais j'ai fait le choix de ne pas avoir de véhicule. Je paye plus cher et je le sais. Vu que le reste de l'année, je n'ai pas une voiture à entretenir, je pense que j'arrive à dégager un petit peu plus d'argent pour ça, puis pour essayer d'être cohérente avec ce que je pense.
Car le train polluerait jusqu'à 40 fois moins que l'avion, selon les associations environnementales. Pourtant, les Français préfèrent en général partir par la voie des airs car l'avion est souvent beaucoup moins cher. La raison, selon Lorelai Limousin de Réseau Action Climat, c'est qu'il est favorisé par les politiques publiques.
L'avion bénéficie d'une exonération de taxes sur le kérosène, d'une exonération de TVA sur les billets d'avion et de subventions directes publiques aux aéroports et aux compagnies aériennes, ce qui fait baisser les prix de l'avion par rapport au train. Alors qu'à l'inverse, ce qu'on observe en Suède, par exemple, c'est que le gouvernement a mis en place une taxe sur les billets d'avion tout en investissant davantage dans les trains. Et en fait, ça a donné lieu à une augmentation de la fréquentation de ces trains.
Et en Suède, le phénomène est tel qu'il porte même un nom, le Flixcam. Comprenez la honte de prendre l'avion.
Claudia Bertram.
Et c'était le journal de Fabienne Lemoal. Merci beaucoup Fabienne.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Et la météo, c'est pas seulement avec Daniel, c'est aussi avec vous Valérie Darmon. Demain, difficile d'échapper à la pluie.
Absolument Philippe, même si nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Alors de la Bretagne à l'Auvergne, aux Pyrénées jusqu'en Occitanie, vous passez la journée sous un ciel menaçant encore ce dimanche, avec un risque d'averses orageuses, surtout l'après-midi en Nouvelle-Aquitaine. Et il neige aussi au-dessus de 1200 mètres sur les Pyrénées et le Massif central. Des côtes normandes aux Alpes-Maritimes, vous profitez d'un temps plus calme malgré des passages nuageux. Il y a comme ça un couloir plus ou moins variable qui barre notre France. Des Hauts-de-France au Grand Est, la Bourgogne et le Jura. Là, vous conservez un temps instable avec quelques averses. Il neige aussi en montagne au-dessus de 1300 mètres. Les températures sont au redoux. L'après-midi, entre 10 à Belfort et 17 à Charleville, 12 à Besançon, 13 à Bourg-en-Bresse, 14 à Manosque, 15 à Montluçon, 16 degrés à Marseille, 17 encore à Paris, c'est la maximale pour demain après-midi. Et bien c'est tant mieux, parce que du coup ma voix va sans doute revenir.
Bon, on vous le souhaite, à tout à l'heure Valérie Darmon, merci.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous, Jean-François Pérez, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et on va commencer par du foot, la Ligue 1, Lyon qui reçoit Dijon cet après-midi.
Oui, c'est l'épilogue d'une semaine agitée sur le terrain avec l'élimination en Coupe de France cette semaine face à Rennes et en coulisses avec le feuilleton Aulas Genesio, le président lyonnais qui a refusé de prolonger le contrat de son entraîneur au cours d'une conférence de presse surréaliste. On va voir si l'OL a digéré ces épisodes en accueillant la lanterne rouge de Ligue 1. Bonsoir Anthony Perel.
Bonsoir Jean-François.
Alors où en sont les Lyonnais ?
Eh ben ils sont mal puisque grosse surprise, c'est Dijon qui mène 2-1, on joue la 54e minute de jeu ici et tout s'est joué en première mi-temps. Il ne fallait pas arriver en retard au stade. Dès la 40e seconde, l'OL a ouvert le score. Un centre au cordeau parfait de Maxwell Cornet, repris dans les 6 mètres par Terrier. 1-0 pour Lyon, tout allait bien. Mais une petite minute de jeu plus tard, un double 1-2 entre Tavares et Saïd dans la surface de réparation lyonnaise, conclu par Saïd, a permis aux Dijonais d'égaliser. Ce même Saïd a donné l'avantage à Dijon sur une frappe déviée par Marcelo à la 7e minute de jeu. Début canon des deux équipes avant que la rencontre ne retombe en intensité. Lyon aurait quand même pu bénéficier d'un pénalty à la 20e. Suite à un coude de Marié dans la surface, mais l'arbitre, monsieur Hamel, n'a pas sifflé et le camion du VAR ne l'a pas contredit dans sa décision. C'est donc le statu quo, 2-1 pour les Dijonais. Lyon pousse et Dijon tente de procéder par contre, mais Lyon va mal.
Ok, Lyon qui reviendrait en cas de succès improbable pour l'instant à un point de Lille. Lille, le dauphin du PSG qui se déplace demain à Reims. Les autres matchs, qu'est-ce que vous faites comme signe?
Petite question, le président a refusé de prolonger le contrat ou a refusé d'annoncer qu'il allait prolonger?
A refusé pour l'instant de prolonger le contrat de Bruno Genesio, on se reparle en fin de saison.
Mais alors les autres précisions. Pardon.
C'est à 20h, non mais vous faites bien de demander des précisions. 20h, Amiens-Saint-Etienne, Angers-Rennes, Guingamp-Monaco et Nîmes-Caen à suivre évidemment dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau et toute son équipe.
Alors maintenant, on va parler du PSG qui va accueillir demain Strasbourg, le récent vainqueur de la Coupe de la Ligue.
Oui, le PSG qui peut être sacré champion 2019 dès demain. Il faut pour cela que les Lillois ne s'imposent pas à Reims et que les Parisiens l'emportent dans la foulée. Les Parisiens qui seront privés de Marquinhos et de Di Maria. Marco Verratti, lui, sera là. Il s'est même invité en conférence de presse tout à l'heure. Le milieu de terrain italien qui veut s'inscrire dans la durée au PSG.
Je suis vraiment bien ici. Là, ça fait déjà 7 ans. Prochaine année, ça fait 8 ans et j'ai toujours la même envie, comme si c'est toujours un des premiers jours, parce que je me trouve vraiment bien ici avec le club, avec les coéquipiers. Comme j'ai dit avant, j'ai très confiance en ce projet, avec tous les joueurs qu'il a envie de jouer pour Paris. Et la prolongation sera une chose de club, s'il veut, mais j'ai encore 2 ans de contrat. Ce n'est pas une chose qu'on doit parler tout de suite, mais je pourrais rester encore longtemps ici et je serai vraiment content.
Voilà pour Marco Verratti avec Julien Froment. Un mot de Ligue 2. Brest, vainqueur du Red Star 1-0, a fait un grand pas vers la remontée dans l'élite aux côtés de Metz. Metz qui a pris un point à Auxerre, 0-0. Un mot de rugby pour terminer. 21e journée du top 14 devant 50 000 spectateurs au Stade Vélodrome à Marseille. Toulon, qui n'a plus rien à espérer cette saison, s'est offert le leader toulousain 25-10 malgré une deuxième mi-temps en infériorité numérique depuis quelques minutes. Les matchs Grenoble-Stade Français, c'est parti, tout comme Bordeaux-Bègles, Perpignan, Montpellier-Agen. Ce soir, Castres-La Rochelle à 20h45. Et puis demain, le choc entre Clermont, l'ASM et le Racing 92. Nous y serons, mon cher Philippe.
Merci beaucoup, Jean-François Pérez. À tout à l'heure.
Europe 1.
Ni droite ni gauche, l'ancien conseiller en communication du président Hollande se lance en politique sans étiquette avec une liste citoyenne. À la mairie de Paris, quel est son projet? Lui qui a longtemps lorgné vers la Macronie, quel œil porte-t-il sur la communication d'Emmanuel Macron? Gaspard Ganzer est avec nous dans un instant.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Philippe Blondel, c'est votre grand journal du soir. Il est 18h17, on va parler politique, Philippe, avec votre premier invité.
Bonsoir Gaspard Ganzer.
Bonsoir.
Vous êtes candidat à la mairie de Paris pour les municipales, ce sera en 2020. On vous a connu conseiller communication du président Hollande. Vous présentez sous quelle étiquette?
La nôtre, Parisienne Parisien, c'est un mouvement citoyen que nous avons créé il y a maintenant près d'un an et qui va présenter les candidats dans tous les arrondissements, c'est-à-dire près de 500 candidats dans tous les arrondissements de Paris.
Qui sont-ils? Qui est avec vous?
Ce sont pas des stars, des stars dans leur quartier, c'est-à-dire des gens qui sont...
C'est le gars qui a le bistrot en bas.
Exactement, c'est le gars du bistrot, c'est le chauffeur de taxi, c'est le retraité, c'est l'étudiant, c'est le commerçant et c'est l'enseignant, voilà.
Il n'y a pas de stars ni de politique confirmée, est-ce que c'est un choix ou au contraire c'était pour faire comme Macron pour la présidentielle, pour apparaître comme un homme neuf?
C'est en fait pour faire comme beaucoup de mouvements citoyens de par le monde. Je crois que les gens se défient beaucoup de la politique professionnelle et ils ont raison, ils en ont marre des apparatchiks, des gens qui font carrière toute leur vie dans la politique et ils ont envie d'être représentés par des gens qui leur ressemblent, notamment au niveau local, où ils pensent que parfois leurs voisins, leurs commerçants, leurs profs sont mieux placés pour expliquer comment faire bouger la ville.
Alors un journal vous a demandé si vous étiez de droite ou de gauche et vous avez eu une drôle de réponse, vous avez dit ça ne m'intéresse pas. Oui, mais ça intéresse les gens. C'est nous qui posons les questions.
Moi personnellement, de toute façon c'est un secret pour personne, j'ai travaillé avec un président socialiste, oui, avec un maire de Paris socialiste, avec un ministre des Affaires étrangères socialiste, donc mes valeurs elles sont de gauche. Mais quand je réfléchis à la propreté, à la sécurité, au logement, au transport, je ne me pose pas la question tous les matins en me disant est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche. Et mon objectif, ce n'est pas de réinventer la gauche, réinventer la droite ou réinventer le centre, c'est de trouver des solutions concrètes pour les Parisiens.
Il y a une tendance, même Anne Hidalgo, la maire sortante, ne se revendique plus du PS, elle dit d'elle qu'elle ne sera pas la candidate d'un parti mais d'une plateforme citoyenne. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça me fait sourire parce que Anne Hidalgo, elle fait de la politique politicienne quand même depuis de très nombreuses années. Et je pense que le Parti Socialiste participera, si ce n'est à la construction des affiches, au moins au financement de sa campagne électorale. Je suis prêt à le parier.
Depuis 5 ans, on va rentrer dans le concret. Il y a 10 000 à 12 000 Parisiens qui quittent la ville chaque année. Pour quelles raisons ?
Ah, ça, c'est vraiment un drame. Hein. Ça fait quand même 60 000 personnes en 5 ans. Ils quittent la ville parce que, un, les logements sont trop chers. C'est plus de 10 000 euros du mètre carré à l'achat. Et des prix de location très chers, parce que la ville est sale, parce qu'elle est de moins en moins sûre dans certains quartiers, et parce qu'il y fait plus bon vivre, notamment pour les familles qui savent plus comment vivre dans cette ville. Et ça, je pense que c'est dramatique, parce que moi, je suis né dans cette ville, j'ai grandi, j'élève mes enfants, ouais, et j'ai envie que mes enfants y vivent quand ils seront grands. Enfin, ils auront peut-être envie d'aller vivre ailleurs, mais en tout cas, s'ils le souhaitent, qu'ils puissent le faire.
Mais comment est-ce qu'on peut faire baisser les prix de l'immobilier, puisque les prix sont libres ? Il suffit, oui, pas, ça se décide pas, c'est comme le chômage. S'il suffisait de faire un décret pour arrêter le chômage et la hausse des loyers, ça serait
alors
déjà fait.
À la différence du chômage, les villes, et notamment la ville de Paris, ont des vrais instruments pour agir. On peut avoir d'abord utilisé le parc de logements social qui existe, qu'on peut un peu développer. Il y a presque 25% de logements sociaux.
Je veux dire la critique qu'on entend. On entend que cette ville est une ville faite pour les très riches et les très pauvres. On est soit aidé, soit on est matraqué par les loyers privés, mais qu'il n'y a rien pour les classes moyennes.
Bah c'est une très bonne critique. Donc je parlais du logement social. Je pense que les gens qui sont dans les logements sociaux, ils ont de la chance et c'est tant mieux pour eux, parce que c'est les gens qui sont en difficulté. Mais ce qui compte, c'est les classes moyennes. Et pour eux, il faut trouver des solutions. Il y a ce qu'on appelle le logement intermédiaire. C'est du logement social pour les classes moyennes avec des loyers modérés, encadrés, comme on dit. Et puis après, il faudra trouver les moyens de construire des logements. Certainement dans ce qu'on appelle les dents creuses, un peu plus haut dans certains quartiers, si c'est fait avec harmonie, et puis trouver des réserves foncières pour construire davantage dans Paris et à l'échelle du Grand Paris.
À propos d'argent, la mairie de Paris a annoncé que les trottinettes électriques seraient désormais taxées, d'abord pour l'exploitant, ensuite une contravention de 135 euros si quelqu'un roule sur un trottoir. C'est une bonne idée, c'est un bon moyen de renflouer les caisses.
Non, je souriais parce que je trouve ça quelque part un peu pathétique de toujours réfléchir à des taxes pour régler des problèmes. La mairie de Paris aurait mieux fait de se poser la question comment faire pour encadrer, régler cette mobilité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des trottinettes qui roulent à 30 ou 40 km/h sur les trottoirs, qui percutent des enfants, des petites vieilles, des petits vieux et des gens, d'ailleurs, de tout âge. Et moi, hier, je trouve que je discutais avec un chef de service dans un hôpital parisien qui me disait qu'ils n'avaient jamais vu autant de polytraumatisés liés à ces trottinettes. Alors, je ne sais pas si c'est... C'est un effet de mode, s'il n'exagérait pas et s'il n'était pas plus marseillais que parisien. Mais la réalité, c'est que je crois qu'il y a quand même beaucoup d'accidents.
Il y a une info dans Le Parisien, le journal de jeudi, qui m'a interpellé. Vous voyez ce que sont les sas à vélo, j'explique. C'est un marquage au sol devant les feux rouges, réservé aux vélos. Et Le Parisien dénonce une pluie de PV. Sur les deux premiers mois de 2019, il y a eu 18 000 PV à 35 euros. 4 fois plus que pour toute l'année 2018. Or, dans le même article, c'est pour ça que je vais vous en parler, le témoignage d'une association de cyclistes qui s'appelle Paris en selle et qui disent « Ces aménagements n'assurent pas la sécurité des vélos, mais ça fait quand même 35 euros ».
Oui, enfin c'est toujours la même idée de la taxe, quoi. Déjà, les taxes, elles ne sont pas efficaces. Et puis en plus, je trouve ça assez lamentable, excusez-moi du mot, de vouloir piquer de l'argent aux gens alors qu'on devrait plutôt les inciter à avoir des comportements vertueux. Donc là, ça ne marche pas et en plus, on taxe les gens.
Ah bah tiens, alors je vous demandais si là ça a marché, parce qu'à propos d'amende, vous proposez, Gaspard Ganzer, de passer de 68 à 200 euros l'amende pour les crottes de chiens et les gens qui font pipi sur les murs.
Bah là, je crois que c'est un peu autre chose quand même. C'est-à-dire que là, on est au-delà
ouais,
du respect.
Ouais, mais là quand même, c'est triplé le...
Ouais, mais alors vraiment, est-ce que vous pensez que c'est acceptable d'aller pisser contre un mur en pleine rue? Excusez-moi de,
non,
excusez-moi
mais
de la vulgarité.
Non.
Mais je crois que là, il faut quand même être extrêmement dur. Même qu'on a bu beaucoup de bière, même quand on est très fatigué, je pense qu'il faut savoir se retenir. On prend un café dans un café, on se débrouille, quoi.
Il y a aussi la circulation, la fermeture des voies sur berge. Vous allez revenir dessus si vous êtes élu?
Non, parce que même si je pense que la méthode a été très mauvaise, honnêtement, ils ont commencé par fermer les voies sans réfléchir à des alternatives. Et puis bon, ça a été fait de façon brutale. Le résultat, c'est qu'il y a plus de pollution dans certains axes de Paris.
Bah oui.
Boulevard Saint-Germain, Porte de Bagnolet, le quai haut de la rive droite. Mais le remettre en cause, ça serait regrettable parce que les gens se sont habitués à aller dessus. Mais honnêtement, c'est...
Quels gens?
Bah, certainement les touristes et puis une partie des familles.
Je veux dire le sens de ma question. C'est vous dites vouloir être le candidat des classes moyennes. Mmh. Mais ce sont les classes moyennes qui traversent Paris en voiture pour aller travailler dans les beaux quartiers. Les riches sont déjà dans le 7e, 8e, 16e. Le mec qui habite à la Muette et qui bosse à l'Étoile, il se moque que ça roule mal sur les quais.
Oui, mais là, ça touche à un autre problème. C'est que je crois que la voiture n'est pas l'avenir des déplacements à Paris, la voiture polluante. Il y a beaucoup d'articles récemment sur l'augmentation de la pollution à Paris, parce qu'il y a un domaine dans lequel Anne Hidalgo a échoué particulièrement, c'est la pollution, parce que celle-ci augmente à Paris. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même dans les écoles parisiennes, dans les équipements sportifs parisiens, une très forte pollution, et que l'endroit le plus pollué de Paris, c'était quand même le métro, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on dit aux gens, allez-y, prenez le métro, prenez plus votre bagnole, et puis une fois qu'on arrive dans le métro, c'est plus pollué que dehors.
Et vous voulez supprimer le périph' aussi d'ici des 15 ans?
Alors oui, justement.
Franchement, non mais juste un mot, c'est un tout petit peu démagogue
mais
quand
pas
même.
Du tout,
parce que
mais
si
pas
vous êtes élu puis réélu, ce que je vous souhaite, ça va faire 12 ans, vous verrez pas votre mesure appliquée.
Bah justement, je suis désintéressé. Ça veut dire que je pense que le maire de Paris qui inaugurera...
Ou alors, ça veut dire que je fais des très belles promesses et je m'en lave les mains.
Ah non, pas du tout. Parce que je pense que c'est capital, c'est un endroit affreusement laid, c'est un endroit hyper pollué, c'est un endroit qui coupe Paris et le Grand Paris, et ça c'est un problème. Je crois que Paris et la banlieue ont vocation à être rassemblés.
Alors selon le dernier sondage Elab Figaro, trois listes font jeu égal autour de 20%, La République En Marche, Anne Hidalgo et Les Républicains avec Rachida Dati. Ensuite viennent les Verts, 7,5 à 10, La France Insoumise, 6,5 à 9, et vous, seulement 3,5 à 6,5. Qu'est-ce qui vous manque pour remonter la pente?
Peut-être d'être un peu plus connu. Il faut aller à la rencontre des Parisiens. C'est ce que je fais tous les jours. Des réunions d'appartements, des réunions dans des bars. Je vais dans les médias aussi. Je vous remercie de m'avoir invité. Ça permet d'expliquer notre programme et nos préoccupations. Mais moi, je n'ai pas peur d'être un outsider parce que c'est une bonne chose de partir de loin. Les gens aiment les gens indépendants, libres et désintéressés. Personne ne pourra me reprocher de faire ça pour aller récupérer un poste. C'est une quête difficile. Si je fais ça, c'est parce que je pense que c'est important de trouver des nouvelles propositions pour Paris.
Vous avez été le conseiller communication de François Hollande jusqu'à la fin, mais pas depuis le début. Vous êtes arrivé après l'affaire du scooter et Julie Gayet.
Oui, juste après.
Comment analysez-vous son regain d'actualité en ce moment, ces petites phrases contre Emmanuel Macron? Que vise-t-il?
J'aimerais
ça vous fait sourire
bien,
encore.
Ça vous fait sourire parce que pendant 3 ans, j'ai bossé avec François Hollande et j'ai eu parfois du mal à le comprendre. Et donc maintenant que...
Et si c'est vous qui le dites,
oui,
c'est un sacré aveu.
Bah c'est vrai. Je l'adore parce qu'il est intelligent, drôle, honnête. Mais parfois, il est très secret, comme d'ailleurs beaucoup d'hommes de pouvoir. Donc maintenant que je ne bosse plus avec lui, c'est encore plus difficile de le comprendre. Donc imaginez quel est le jeu à 2, 3, 4, 5, 6 bandes qu'il a derrière la tête, c'est quasiment impossible. Je pense que tout simplement, il adore la politique. Il a envie de continuer à en faire, à la fois parce qu'il pense que son pays ne va pas très bien et que l'Europe ne va pas très bien, mais aussi certainement parce qu'il a envie de rester dans le jeu, et c'est humain.
Vous qui êtes un spécialiste de la communication, que pensez-vous du choix de Sibeth Ndiaye comme porte-parole, elle qui avait déclaré à l'Express assumer de mentir pour protéger le président, en l'occurrence Macron?
Alors, j'ai trouvé ça gonflé parce que c'est vraiment une grande gueule et moi j'aime bien les grandes gueules et j'aime les gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Et quelque part, j'espère qu'elle sera toujours cette grande gueule une fois au porte-parole-là et qu'elle ne va pas commencer à débiter de la langue de bois ou des éléments de langage tout fait. Après, je pense qu'il faut qu'elle fasse attention, mais elle le sait. En fait, qu'il faut bien avoir des bonnes relations avec les journalistes. Les journalistes ne sont pas des ennemis, ce n'est pas des amis non plus. C'est tout simplement un contre-pouvoir qui est là pour faire son job.
Non, mais quand vous avez un porte-parole qui assume le fait de mentir pour protéger le président, on assume le mensonge.
C'est un gros problème. C'est un gros problème.
Donc c'était ça le sens de ma question.
Ouais, c'est un gros problème. Ça, ce qu'elle a dit, c'est un gros problème. D'ailleurs, je pense qu'elle a eu l'occasion de revenir dessus. Moi, si j'étais à sa place, je dirais tout simplement, écoutez, j'ai dit ça, c'était une bêtise. J'ai compris qu'il fallait dire la vérité, tout simplement.
Vous avez dit, vous, des bêtises avec le président Hollande?
Alors, j'ai pas menti, mais par contre, je me suis régulièrement trompé, soit parce que j'étais pas informé, soit parce que je faisais des pronostics électoraux qui étaient pas bons. Donc ça m'est arrivé souvent de me tromper, mais par contre, j'ai jamais cherché à embobiner un journaliste parce que, déjà, c'est pas mon éducation m'a pas transmis ces valeurs-là, mais en plus, parce que je crois que les choses finissent toujours par se savoir.
Merci beaucoup, Gaspard Ganzer, ça va se savoir. Vous êtes candidat à la mairie de Paris pour 2020. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Ils prônent la mixité sociale, mais ils se décarcassent pour mettre leurs enfants dans les écoles réputées privées. Le film La lutte des classes, sorti mercredi, se moque de ces paradoxes des petits bourgeois et des bobos. Son réalisateur Michel Leclerc sait de quoi il parle. Pour avoir fait lui-même la même erreur, il en a fait un film. Il sera avec nous dans un instant.
h 29, ce grand journal du soir se poursuit avec vous, Philippe Andel.
Et avec le rappel des titres de Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Participation légèrement en hausse pour l'acte 21 des Gilets jaunes. 6300 personnes recensées à 14h partout en France. 900 de plus que la semaine dernière. Mobilisation dans le calme, sans incident majeur. À Paris, où 3100 manifestants défilés en début d'après-midi, la police a procédé à 28 interpellations. Le Royaume-Uni toujours empêtré dans les discussions sur le Brexit, mais première mesure symbolique. Les premiers passeports sans la mention Union européenne commencent à être délivrés. Le Brexit, une impasse qui agace le ministre des Affaires étrangères à l'issue d'une réunion du G7 à Dinard. Jean-Yves Le Drian a estimé qu'il était temps que cette situation s'arrête. Et puis le SIDAction ce week-end, 25e édition, l'occasion de faire un don par téléphone au 110. L'appel est gratuit ou sur don.sidaction.org. Plus de 990 000 euros ont déjà été récoltés.
Merci beaucoup Sophie, on parlera du SIDAction avec notre invité à 19h15.
Europe 1. La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Et la météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Un peu de pluie, quelques orages et de la douceur demain.
Vaste programme, il faut de tout pour faire un monde et c'est ce que nous offre le programme météo de ce dimanche. Nous restons sous l'influence d'une dépression centrée sur le golfe de Gascogne. C'est elle qui génère des remontées instables sur les régions atlantiques et sur celles situées à l'est du Rhône et au nord de la Seine. Entre les deux, c'est-à-dire la Normandie, le bassin parisien, le centre, là vous êtes épargné avec un temps plus variable et plutôt lumineux et surtout sec. Le matin, il fera entre 4 et 8 degrés en moyenne à l'échelle du territoire. L'après-midi, les maximales afficheront 12 degrés sur le Finistère et le Jura, 14 à 18 ailleurs. On se situera globalement dans les moyennes de saison.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Et bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. On va parler cinéma, Philippe Vandel, mais c'est pas du cinéma.
Pas seulement, La lutte des classes est un film actuellement à l'affiche avec Édouard Baird et Léla Becti. Il met en scène un couple de gauche, ouvert, antiraciste, qui habite à Bagnolet, une banlieue populaire qui est pas loin de Paris, qui touche Paris, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas très bien la région. Ils mettent évidemment ses parents, leurs enfants dans l'école publique, sauf que tout change quand il découvre que le petit est le seul blanc de sa classe et qu'il subit de la part des autres une mise à l'écart. Et tout part d'une histoire vraie, celle du cinéaste et de son épouse, co-scénariste du film. Bonsoir Michel Leclerc.
Bonsoir.
Vous êtes le réalisateur du film La lutte des classes, co-écrit, je l'ai dit, avec votre épouse Baya Kasmi. Vous avez dit, et c'est pour cette raison que je trouve votre propos passionnant, « Tout est né de notre mauvaise conscience expliquée ».
Oui, comme énormément de parents, en fait, comme tous les parents, je dirais, on est complètement soucieux du bien-être de nos enfants. Mais en même temps, on est aussi soucieux d'un idéal républicain. Ouais. Et moi, je suis fils de prof, par exemple, et pour moi, l'école publique, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on peut pas, comme ça, jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire. Donc voilà, naturellement, nous, on a vécu 10 ans, effectivement, à Bagnolet, et puis... très bien, vraiment en toute harmonie, dans un quartier très mixte, etc. Et puis à un moment donné, effectivement, on a commencé à s'inquiéter pour notre fils, à l'école.
Le moment donné, vous dites, vous avez vu une césure après les attentats de Charlie Hebdo en 2015.
Oui, absolument. C'est-à-dire que, alors ensuite, c'est parce que aussi l'atmosphère de la société était à la peur, et elle l'est toujours. Donc effectivement, la peur est mauvaise conseillère, quoi.
Vous dites, notre fils de 9 ans nous a dit qu'il était le seul de la classe à ne pas croire en Dieu.
Oui, c'est vrai.
Et que les enfants dans sa classe justifiaient en quelque sorte les attentats.
Oui, alors, il faut faire très attention à ce qu'on dit sur un sujet comme ça.
C'est-à-dire c'est vous qui l'avez dit. Hein.
Pour ce qui nous concerne, nous, à un moment donné, disons qu'on a eu suffisamment peur pour être inquiet. Et cette inquiétude nous a poussé à le changer d'école. Voilà. En trichant sur notre adresse, par exemple, et en l'envoyant dans une école du 20e arrondissement, toujours publique. Et voilà. Donc, mais ensuite, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on est incapable de dire avec le recul, et on a même parlé ce midi, si vraiment ce que vivait notre fils était inquiétant ou pas. En fait, c'est aussi une projection des parents.
Ah bah tiens, justement, il y a une scène très forte. Un soir, le père constate que les ciseaux ont disparu des trousses des élèves sur ordre de l'école, car, je cite le film, un petit CM1 a pris ses ciseaux et a découpé la bouche et les oreilles d'un autre petit CM1. Il y avait une mare de sang. C'est vrai ou Il vous a raconté ça?
Non, oui, effectivement, on l'a vécu aussi, oui.
Ah bah dis donc, si on n'est pas inquiet après ça, qui est inquiet?
Sauf que c'est dans l'école. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ça ne concernait absolument pas des élèves de sa classe. C'est aussi, je veux dire, des moments de violence dans une école, quelle qu'elle soit, ça peut arriver.
Ouais.
Ça peut arriver. Là, en l'occurrence, ça ne le concernait pas du tout, lui, personnellement. Mais c'est comme ça que s'enclenche une peur collective. Et au fond, c'est vraiment ça, le sujet qui est le plus intéressant. C'est que la peur collective engendre l'évitement scolaire et engendre une dégradation de l'école publique aujourd'hui.
Vous vous sentiez dans quel état, ensuite, après cet évitement scolaire, parce que vous avez triché sur votre adresse,
très mal.
Vous avez carrément déménagé?
Très mal, très mal. On était très mal puisqu'on était renvoyé aussi.
C'était un vous collectif. Enfin, j'associe votre épouse dans votre propos.
On était renvoyé à notre lâcheté peut-être dans une situation comme celle-là, on ne sait pas où est le courage, où est la lâcheté. Mais en tout cas, de devoir tricher pour changer notre enfant d'école. On a envisagé effectivement de le mettre à l'école privée, ce qui pour moi était vraiment le comble de ce que je pouvais pas faire.
Ouais.
Et on ne l'a pas fait. Et oui, donc voilà, quand on est vraiment face à ces contradictions, on se sent poisseux, quoi. On se sent poisseux.
Bagnolet, c'est une ville où il y a de la gentrification, c'est-à-dire il y a des grandes tours, une forte population immigrée, mais il y a aussi des maisonnettes, des pavillons, où viennent habiter des gens qui n'ont plus les moyens de vivre à Paris. On était avec Gaspard Ganzer qui parlait de ça. Finalement, ça devrait être une bonne nouvelle pour vous s'il y a des CSP+ qui vont s'installer en banlieue.
Oui, sauf qu'il faut que, comme il est dit dans le film, que la mixité, pour que ça soit de la mixité, il faut que ça soit de la mixité.
Et on arrive j'adore cette réplique.
À ce paradoxe aujourd'hui qu'il y a beaucoup de quartiers, y compris dans Paris, moi j'habite le 20e maintenant, qui est le quartier est plus mixte que l'école. Et ça, c'est complètement aberrant. C'est-à-dire que l'école républicaine n'est plus représentative du quartier qui est autour.
Il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que le film est très très drôle.
Oui, c'est vrai.
Vous parlez d'un problème très grave, mais vous en parlez très drôlement. On éclate de rire.
Oui.
Il y a des réunions dans le collège privé à mourir de rire. Edouard Baer en batteur de groupe punk, incroyable. Mais vous n'éludez pas non plus les questions, vous parlez du voile. Il y a un débat dans le couple avec Edouard Baer. Edouard Baer et son épouse Lella Bekti, qui est d'origine maghrébine, et c'est une copie de votre propre couple. Puisque votre femme, Baya Kasmi, elle ne vient pas de Finlande.
Non, c'est sûr.
Pour dire les choses.
Et donc, ces débats, on les a eus. On vous voit
tous les deux en train de discuter.
Ces débats, on les a eus autour de la laïcité, autour du respect des autres. Parce qu'évidemment, la gauche, elle est toujours sur ses deux jambes. C'est-à-dire à la fois contester l'ordre établi, ni Dieu ni maître. Enfin, c'est vraiment, voilà, il y a toute une partie de la gauche qui vient
Bien sûr.
Et de l'autre, la défense des minorités, la défense de l'autre.
Oui.
Le respect de l'autre. Et voilà. Et aujourd'hui, on a l'impression que ces deux valeurs, souvent, viennent se cogner l'une contre l'autre.
Et parfois, la gauche est à cloche-pied, d'où des expressions comme la gauche caviar. Tous les gens qui sont dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, qui défendent l'immigration et qui mettent leurs enfants dans les très très bons lycées où justement il n'y a pas d'immigrés, la gauche n'est pas toujours conforme
à
ses idées. C'est ce que vous dénoncez.
Mes personnages ne sont pas la gauche caviar. Parce que dans
un endroit
comme... comme Bagnolet, il y a même beaucoup de gens qu'on appelle des bobos, mais qu'on pas une thune aussi.
Ouais. C'est-à-dire que voilà, il y a une séquence hilarante là où ils font pousser des légumes comme ils veulent, mais il y a tellement de règles que t'as l'impression qu'il vaut encore mieux aller au supermarché acheter des trucs sous plastoc. Ouais. C'est vraiment un film réussi. Je suis très heureux de vous avoir entendu votre propos, Michel Leclerc, très généreux.
Merci.
Je le rappelle, le film s'appelle La lutte des classes. C'est à l'écran. C'est avec Édouard Baird, Léla Becti et Ramzi Bedia qui joue le prof d'école. On a l'impression que c'est son métier tellement il est bon. Merci d'avoir été avec nous.
Merci bien.
Europe 1. Mon prochain invité, vous le connaissez évidemment, bientôt 45 ans de carrière à la télé, des jeux cultes. Patrick Sabatier revient ce soir en prime time sur C8. Mais avant ça, il a fait un détour par Europe 1.
Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1. Il est 18h40, c'est l'heure de parler médias avec vous, Philippe Vandel, et avec une star éternelle de la télé.
Bonsoir Patrick Sabatier.
Bonsoir Philippe Vandel.
Faut-il vous présenter? Vous êtes une des grandes figures de la télé française, Le Jeu de la Vérité, Porte-Bonheur, Avis de Recherche, Le Site à Dessin. Vous avez quitté TF1 en 92, vous êtes revenu sur France 2 en 2009, après plusieurs émissions dont Mot de Passe, émission supprimée alors que les audiences étaient très bonnes. Vous avez peut-être été victime du syndrome de l'homme blanc de plus de 50 ans. Et là, vous revenez sur C8 avec une nouvelle émission, ça s'appelle On se retrouve chez Sabatier. Ce soir, l'invité c'est Franck Dubosc. D'abord, racontez le principe de l'émission.
Alors quand vous dites une nouvelle émission, c'est la seule erreur que vous ayez faite jusqu'à présent. Parce que c'est en réalité un ensemble d'émissions que j'ai déjà faites, comme Le Jeu de la Vérité, comme Avis de Recherche, comme Porte-Bonheur. Le principe, d'une part, c'est de se retrouver tous ensemble avec des amis d'hier et d'aujourd'hui. Il y a un côté un petit peu Avis de Recherche. Voilà. Là, avec Franck Dubosc, il a choisi une photo de Terminal G3 au Val-de-Seine, au Grand Quevilly. Et puis, c'est aussi les surprises, l'émotion, et puis c'est aussi l'actualité de l'invité. Franck, là, je crois qu'on va le découvrir encore autrement. C'était pas facile parce qu'il avait fait déjà pas mal d'émissions.
Plein.
Il fallait donc passer dans des sentiers encore inconnus, inexplorés. Alors, par exemple, avec ses copains, ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, c'était en 1981, il y avait pas de photo de classe à cette époque-là dans son lycée. Et il avait fait, lui, une photo. Il s'était mis au centre et il s'était dit en 1981, un jour, on se retrouvera chez Sabatier.
C'est pas vrai.
Et on a retrouvé les copains. Lui-même, voyant Avis de Recherche, s'était projeté dans l'avenir en disant « Je ferai mon Avis de Recherche ».
Incroyable.
Déjà un peu mytho, déjà. Hein. Mm-hmm. Et en même temps, ça lui a bien réussi. Et c'est vrai que ses copains nous ont raconté un gars qui est comme aujourd'hui. C'est-à-dire que Franck Dubosc, il a une double vie. Il a sa vie qui lui plaît moyennement. Et puis la vie qu'il s'est faite, c'est-à-dire la vie de...
Sublimée,
voilà.
Du playboy et à qui tout réussit.
Voilà. Et en réalité, il était déjà comme ça quand il avait 17-18 ans. Et ça, c'est formidable de se dire. Donc, il y a une vraie vérité.
Mais l'incroyable histoire de « Un jour, j'irai chez Sabatier avec ma classe », vous connaissiez cette histoire ou vous l'avez découverte en travaillant, en préparant cet entretien?
Je l'ai découvert parce que quand j'ai découvert que Franck Dubosc était interviewé pour l'émission, il disait tout simplement ça.
Non, mais vous ne saviez pas avant.
Pas du
non, tout. Il aurait pu vous le raconter
pas
il y a 10
tout,
ans, 20
pas
ans, 30 ans.
Il
l'a... En 3 ans.
Hier, je lui ai dit pendant l'émission, mais est-ce que c'est vrai? Et alors, j'ai demandé à ses copains, et tous ses copains et copines qui étaient là, presque 40 ans plus tard, ont dit, mais oui, son rêve, c'était de faire l'émission de Sabatier. Il avait 17 ans.
Comment vous avez travaillé en amont? Vous avez rencontré plein de gens? Comment vous avez fait?
Alors, c'est une équipe qui me raconte l'histoire du Bosc après avoir enquêté. Mais moi, je ne rencontre jamais mon invité. Mon invité, je le vois dans la loge 5 minutes avant et je lui souhaite une bonne soirée.
Alors, j'ai pas vu l'émission. On va pas tout griller, mais il paraît qu'il a pleuré.
Oui, mais c'est pas l'intérêt de l'émission. Il paraît surtout que vous allez découvrir un Franck Dubosc que vous n'avez pas encore vu, c'est-à-dire quelqu'un qui se raconte encore plus que d'habitude et qui se dit aujourd'hui, tiens, je fais un spectacle qui s'appelle 50-50. Aujourd'hui, je vais vous dire toute la vérité.
Alors, la bande-annonce est formidable parce qu'il y a une réplique du film Camping qui pouvait pas mieux tomber. Il dit, alors, on n'attend pas Patrick?
Eh oui,
et puis, il l'a faite pour vous, celle-là, on dirait presque.
J'ai eu la chance, il l'a refait d'ailleurs en plateau, et là, c'est une surprise.
Alors, la première dont on se retrouve chez Sabatier avec comme invité Cyril Hanouna, qui est aussi le producteur de l'émission, c'est lui qui vous a fait venir sur C8. Comment on peut faire des surprises au producteur de l'émission, alors que par définition, le producteur de l'émission connaît toute l'émission, donc il ne peut plus être surpris? Comment
vous
avez fait?
Sauf que là, c'était un cas particulier, vous avez raison Philippe, mais Cyril, c'était l'émission du mois de janvier, s'est retiré de la course en disant, sinon il y a de la triche.
Ouais.
Donc moi j'ai dit, soit on la joue vrai, ou soit on ne la fait pas. Il a dit, on va la faire comme ça. Mais ça a été plus facile, c'est vrai, de travailler avec Dubosc qu'avec Cyril, parce que Cyril, quand même, il était dans ses murs, avec ses équipes, etc. Là, il me laisse évidemment tout faire, mais je n'ai plus qu'à prendre par la main mon invité. J'ai fait 2 émissions hier. Une que vous verrez ce soir, tout à l'heure, à partir de 21h sur C8, et une autre que vous verrez au mois de mai. Les 2 invités se sont laissés comme ça guider. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites ce soir, mesdames et messieurs, Mais jetez un œil sur ces 8.
Le visuel du titre de l'émission, c'est « On se retrouve chez Sabatier », mais il y a des lettres en gras. Le « on », le « retrouve », le « Sabatier », ça fait qu'on lit aussi « on retrouve Sabatier ». La télé, ça vous avait manqué ?
Mais alors, je ne m'en suis jamais aperçu de ce que vous me dites.
Ah ben, regardez, on lit « on retrouve Sabatier ». Ah bah avec alors, les lettres que vous avez mis en gras.
Ah bah alors, je vous explique simplement. Moi, je voulais appeler ça On se retrouve.
Ouais.
Et c'est la chaîne qui a dit non, on va l'incarner davantage.
Ouais, c'est moi, vrai. C'est pas comme si votre nom n'était pas connu.
Oui, mais moi, je trouvais qu'on se retrouve, c'est pas mal, quoi. On se retrouve ensemble. Et puis, donc, je ne me suis. Ah, mais c'est pas mal, ça.
Merci beaucoup. Vous avez aussi une deuxième émission sur C8, Vendredi Vérité. Alors, vous en êtes où de cette émission?
Non, je pense que là, on va réfléchir. Enfin, j'ai demandé à la chaîne. Parce que C8 tient à me donner plus d'émissions et H2O également. Mais la tentative qu'on a fait a pas très bien marché. Moi, je trouve qu'on est mal positionné le vendredi à 21h. C'est pas une émission de prime. Donc, c'est une émission qui devrait être revue et corrigée. On m'a proposé d'autres places dans la grille.
Ouais.
Je pense qu'on n'est pas prêt encore. Je pense que C8, aujourd'hui, il y a déjà le talk d'Ardisson, n'est pas prêt à avoir un deuxième talk tout de suite.
Ouais.
Donc,
c'est avec PPDA.
Oui, mais qui est quand même un très bon invité.
Oui, mais il n'est pas sulfureux comme Yann Moix qui s'était décommandé à la dernière minute. Ça marche cette émission-là, le jeu de la vérité, si un type a des vérités très très fortes à dire.
Oui, mais moi, Philippe, je ne suis pas certain que l'émission ait de l'avenir. Je suis en train de dire à C8, réfléchissons, peut-être un autre positionnement, ce que C8 me propose déjà. Mais moi, je suis un peu plus exigeant encore, vous me connaissez, donc je suis un peu casse-pied. Je dis, il ne faut peut-être pas la faire cette émission, il faut peut-être faire autrement.
Je dois dire quelque chose, c'est très très rare de voir quelqu'un émettre des réserves sur sa chaîne. Je vous félicite pour votre franc-parler, Patrick Sabatier. Vous avez débuté à la télé en 75, pardon de le dire.
Non, mais
bientôt 45 ans de métier, quel regard vous portez sur la télé d'aujourd'hui?
Déjà, moi, je fais comme tout le monde, je la regarde un peu moins,
ouais.
Parce que j'ai d'autres possibilités, on a d'autres technologies, d'autres façons, d'autres comportements. Maintenant, je pense que quand je vois que le Capitaine Marlowe sur France 3, qui est une série bien française, bien ficelée, bien écrite, bien interprétée, fait 7 millions de téléspectateurs, je me dis que la télévision généraliste d'aujourd'hui a encore beaucoup d'avenir devant elle.
Et est-ce que vous regardez les émissions de variété qui ont fait votre fortune et votre gloire dans les années 80-90?
Moins, parce que d'une part, il y en a moins.
Ouais.
Et puis parce que je sais très bien comment ça marche, a priori, et que je ne vais pas pousser. Par exemple, je ne regarde pas mes émissions. Je ne regarde pas non plus les émissions de variété des autres.
Merci beaucoup, Patrick Sabatier. Je le rappelle, on se retrouve chez Sabatier. C'est ce soir sur C8 à 21h avec Franck Dubosc.
Merci beaucoup.
Europe 1.
À suivre, on ne change pas totalement de sujet, le replay télé d'Anne Le Gall, et puis c'est presque l'heure de l'apéro, donc de la planche apéro, direction la région de Narbonne, avec Gilles Goujon, 3 étoiles au Michelin.
Bonne fin de journée avec Europe 1, notre rendez-vous média, c'est aussi le replay télé. Il est 18h50, Philippe Vandel.
Une fois n'est pas coutume, Eva Rock n'est pas là, elle est partie faire réparer sa télé. Bonsoir Anne Le Gall.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, comme le fait Eva chaque samedi, cette fois-ci c'est vous qui nous conseillez de voir ou de revoir 3 programmes diffusés à la télé. Quelle pépite avez-vous trouvé cette semaine pour nous ?
2 documentaires et 1 fiction. On va commencer par la fiction, elle a été diffusée sur France 2 cette semaine. Ça s'appelle La Disparition avec Géraldine Payas, Alix Poisson et Thierry Godard. C'est l'histoire de Betty qui s'évapore du domicile familial un dimanche matin, laissant Bruno, son mari, seul avec 2 enfants. Ce dernier tarde à donner l'alerte, ce qui fait qu'il devient très vite le coupable idéal.
Monsieur Gaillon, vous êtes toujours convaincu que votre épouse va revenir ?
J'espère, oui.
Non, je veux dire convaincu. Persuadé, absolument sûr. Parce que ça fait une semaine maintenant. Si vous voulez qu'on lance une recherche, il faut déclarer sa disparition. Sinon, on peut rien faire. Et en même temps, pour nous, enfin, pour l'entourage de votre épouse surtout, sa maman, ses enfants, ses amis, c'est difficile de comprendre pourquoi vous faites rien.
Voilà, on rajoute à ça un amant très inquisiteur, des traces de sang. Qu'est-il arrivé à la mère de famille ? La mise en scène très efficace nous fait franchement douter jusqu'au bout. Cette fiction inspirée de l'affaire Suzanne Viguier vaut le détour. Ça s'appelle donc La Disparition et c'est à revoir sur France TV.
Et vous avez également aimé 2 documentaires.
Oui, alors là, changement total de décor. J'ai beaucoup aimé le magazine Faut pas rêver consacré au Sri Lanka. Caroline De Silva nous embarque dans les coulisses des préparatifs de la Navam Peraera. C'est une grande fête en l'honneur de Bouddha et de la pleine lune qui rassemble chaque année 3000 danseurs dans les rues de Colombo. Un rendez-vous qui demande des semaines de préparation, y compris pour la dizaine d'éléphants qui participent au cortège.
Ils se préparent.
Ils se préparent et figurez-vous qu'ils ont droit à un bon bain avant la fête. Donc on les voit coucher sur le côté dans un grand baquet en bois. Et le plus drôle, c'est qu'ils se laissent faire.
Il a l'air d'être heureux, hein ? Il a l'air d'aimer ça.
Ah, il adore ça, oui.
C'est étonnant de voir un pareil colosse
se faire dorloter comme un enfant.
Ça a beau être une grosse bête, une fois dans l'eau, il est comme un enfant dans son bain. On le lave comme ça pendant 2 ou 3 heures.
Voilà, la présentatrice finit aussi dans le bain parce qu'elle finit par aussi aller gratter le dos de l'éléphant avec une écorce de noix de coco. Après le Sri Lanka, le magazine enchaîne avec une escapade en Sicile aux abords de l'Etna. Là encore, les paysages sont grandioses. Faut pas rêver, c'est donc à revoir sur la plateforme, là encore, de France TV.
Et puis une fois n'est pas coutume, on va finir avec un peu de science.
Vous aimez contempler le ciel en été, regarder les étoiles, vous perdre dans le lointain?
Oui, oui. Et reprendre un verre de rosé.
Alors, foncez regarder le replay du documentaire qui s'appelle « Voyage sur les flots célestes ». L'astrophysicienne Hélène Courtois nous emmène visiter les plus grands télescopes du monde, des machines d'observation puissantes qui permettent d'observer le ciel le plus loin possible et de dessiner des cartes du ciel. Ça permet de situer notre planète Terre dans le cosmos.
Le sentiment d'être tout petit, que l'univers soit infini, qu'on ait le vertige, que ça soit un peu paniquant, c'est un sentiment qui demande qu'à s'éteindre. À partir du moment où on commence à connaître, à prendre conscience de son environnement cosmique.
Alors il faut rester un petit peu concentré pour suivre les explications scientifiques, mais franchement, les images sont bluffantes. Voyage sur les flots célestes, c'est donc à revoir sur France TV.
Et je vous fais une confidence cette fois-ci authentique, je suis grand fan des émissions scientifiques, j'adore ça, donc je vais regarder cette émission. Allez-y. Merci beaucoup Anne Le Gall.
Merci beaucoup.
Bonne semaine.
Bientôt 19h, Philippe Vandel, c'est l'heure de la planche apéro sur Europe 1.
Bonsoir Gilles Goujon.
Bonsoir.
Vous êtes restaurateur, cuisinier, chef de l'auberge du Vieux-Puy, ça se trouve à Fonjoncouze. Ça se trouve où ?
C'est entre Narbonne et Carcassonne, en plein cœur des Corbières, dans un petit massif rocheux magnifique.
Alors je vais le dire, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de gare. C'est un village qui compte seulement 146 habitants et pourtant vous avez 3 étoiles. Merci d'être avec nous ici sur Europe 1. La planche apéro, c'est important pour vous aussi l'apéro. Qu'est-ce que vous nous proposez ?
Puisqu'on parle de mon livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps.
Je vais le dire. Tiens, voilà, ça s'appelle Gilles Goujon à Fonjoncouze, quelque part en Corbière, et c'est chez Glénat.
Dans ce livre, il y a une petite recette, qui, une spécialité que nous faisons, c'est les huîtres tarbourièches perlées, légèrement fumées au bois de hêtre, avec un tartare d'huîtres engelé.
C'est impossible à refaire, ça.
On va faire un peu plus simple. Ah. On va faire juste les huîtres fraîches. Alors moi, ce que je recommande toujours, c'est toujours les huîtres tarbourièches numéro 3 ou les Gilardeaux, parce que c'est deux grands faiseurs, et elles sont assez faciles à trouver chez les cahiers. Donc il faut pour ça avoir 2 douzaines d'huîtres, hein, pour 4-5 personnes. Ouais. On va avoir besoin de 2 douzaines d'huîtres, 4 par personne qu'on va garder pour dresser, puis les autres, on va les couper en tartare. Alors, on va commencer par ouvrir toutes ces huîtres. Une fois que les huîtres sont ouvertes, on nettoie bien propre les coquilles, parce qu'on a défait les huîtres, on les aura retournées dans une plaque mise au frigo, en attendant la préparation. Elles vont rendre un jus qu'on récupérera aussi. Les coquilles d'huîtres bien nettoyées, bien séchées, on les met au frigo aussi. Et pendant ce temps, avec les huîtres supplémentaires, puisqu'on en garde 16 pour 4 personnes, qu'on va concasser en petits morceaux, on va ajouter dans un cul de poule 10 grammes d'échalotes ciselées finement, 3 centilitres de crème fouettée, avec 15 grammes de ciboulette, 1 centilitre de jus de citron, 1 gramme de zeste de citron vert et une cuillère à soupe de noisette. On va mélanger tout cela délicatement avec juste une pointe de poivre.
D'accord.
Et donc on va mettre ce tartare au fond des coquilles d'huîtres. On va recouvrir avec les huîtres qu'on a ouvertes. On garde ça au frigo et pendant ce temps, avec tout le jus d'huître qu'on aura récupéré des 24 huîtres, ça va nous donner à peu près 8 à 10 centilitres de jus d'huître. Mmh. On garde tout ce jus. On met un demi-jus de citron dedans. On fait fondre une feuille de gélatine dans un peu de jus d'huître. Et on place ça dans un cul de poule. Ce cul de poule, on le remet dans un autre cul de poule de la glace. Et on attend qu'elle soit légèrement tremblotante. Dès que la gelée est légèrement tremblotante, on va prendre une cuillère à soupe, et on va napper comme si c'était une sauce sur ces huîtres qui nous attendent au frigo, la bien fraîche, qui attendent juste ce moment-là. Mmh. Et donc après, vous gardez ça au frigo jusqu'à l'heure de l'apéro. Vous êtes tranquille, peinard à la maison, vous pouvez déboucher vos bouteilles de vin blanc, et là, le vin blanc, un bon vin blanc des Corbières, style les Olio Romanis, qui est légèrement élevé en fût de chêne, c'est merveilleux avec ça, quoi, voilà. Et je vais vous dire, les vins blancs des Corbières, bien évidemment, et là, on a déjà la Méditerranée qui change, parce qu'on a cette iode-là, et en même temps, le terroir des Corbières, avec ces vins blancs un peu soutenus, comme ça, mais ronds, parce qu'ils sont toujours pris dans le soleil, quoi,
ouais.
Voilà.
Rond, c'est exactement le mot qui convient, avec modération évidemment. Merci beaucoup Gilles Goujon. Évidemment. Je rappelle que vous êtes le chef 3 étoiles de l'auberge du Vieux Puy, ça se trouve à Fonjoncous. Et si vous voulez retrouver, chers auditeurs, auditrices, toutes ces recettes, c'est dans son livre qui vient d'être publié chez Glénat. Merci d'avoir été Parfait. Avec nous. Bon dîner, bon appétit, bon apéro.
Merci, au revoir, bonne soirée.
Europe 1.
Juste le temps de débarrasser dans un instant le journal de 19h avec Sophie Dussault. A tout de suite sur Europe 1.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h-20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Si vous nous rejoignez maintenant, merci de nous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. C'est le week-end du site d'action dont Europe 1 est évidemment partenaire. Je recevrai le professeur Pierre-Marie Girard. Il est chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il est très intéressant car il a un regard neuf sur la question. Vous l'entendrez à 19h15. Et puis, ne manquez pas notre demi-heure culturelle. L'humoriste Jérôme Commandeur ne pouvait pas être en direct avec vous et avec nous à 19h30 car il a justement son spectacle tout à l'heure, dans quelques minutes, au même moment. Il nous a rendu visite et je peux vous dire que cette demi-heure est un petit moment de radio, c'était même un moment de vie. Rarement on a autant ri.
Et vous pouvez réagir bien sûr en publiant un commentaire sur les réseaux sociaux, Twitter par exemple, avec le hashtag Europe 1. Il est 19h. Bienvenue à vous et bonne écoute à tous. Le journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Comme tous les samedis depuis 5 mois, les gilets jaunes sont à nouveau descendus dans la rue. Mobilisation légèrement en hausse et dans le calme. Premier signe apparent du divorce, les passeports britanniques ne portent désormais plus la mention Union Européenne. Le site Action, week-end de dons et d'informations sur la prévention mais également sur les traitements. Et puis il s'est refait une beauté durant 10 ans. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux a rouvert ses portes au public.
Europe 1.
Pour le 21e samedi consécutif, les gilets jaunes sont à nouveau descendus dans les rues de France.
Avec un appel à un rassemblement national à Rouen, à 14h, ils étaient 6300 partout en France à défiler, dont la moitié à Paris, une participation légèrement en hausse par rapport à la semaine dernière. À Paris, où 43 personnes ont été interpellées et deux cortèges déclarés, Victor Delande.
Oui, le principal cortège parisien est parti de la place de la République en milieu de journée. Les gilets jaunes ont rallié le quartier d'affaires de la Défense, un emblème choisi pour dénoncer l'évasion fiscale, comme l'explique Fatih au micro de Théo Manval.
On essaye de prendre des symboles comme ça pour faire ouvrir les yeux des Français. T'as des sociétés américaines qui viennent s'implanter en France qui ne payent pas d'impôts. Google, Amazon, tous ces gens-là ne payent pas d'impôts. C'est des voleurs d'argent du peuple français.
En marge de ce cortège parisien, quelques manifestants ont brièvement tenté de descendre sur le périphérique avant d'être rapidement repoussés par les forces de l'ordre. À Rouen, un millier de personnes ont manifesté dans une ambiance assez tendue. Des échauffourées ont éclaté entre les CRS et des black blocs. Des poubelles ont été brûlées, du mobilier urbain dégradé. D'autres rassemblements plus calmes se sont déroulés cet après-midi à Toulouse, Nantes, Lyon, Nice, Montpellier ou encore Dijon. Enfin, à Saint-Nazaire, près de 500 gilets jaunes se sont donné rendez-vous pour la seconde assemblée des assemblées. Ils y ont notamment évoqué l'idée de bâtir des listes pour les élections municipales de 2020. Une façon, selon eux, de donner une suite au mouvement des gilets jaunes.
Merci Victor Delande. Ces manifestations sont les premières depuis la fin du grand débat national. Édouard Philippe fera dès lundi une restitution des apports et des contributions. Emmanuel Macron annoncera les premières décision mi-avril. Autre mobilisation aujourd'hui, outre-Rhin, les Allemands ont défilé dans les plus grandes villes du pays contre la folie des loyers et la spéculation immobilière. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Berlin. Les prix des locations y ont doublé en 10 ans.
Sur le papier, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est consommé.
Oui, plus exactement sur les passeports. Alors que les discussions sur le Brexit patinent, il ne comporte désormais plus la mention Union européenne. Chanel Petit, c'est une mesure symbolique.
Oui, c'est juste une petite ligne en moins, ça se voit assez peu, mais le symbole est fort, effectivement. Ça veut dire nous sommes déjà partis alors qu'aucun accord de sortie n'a été trouvé. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes britanniques ont exprimé leur consternation ces derniers jours. Je suis encore européenne, j'aimerais que sur mon passeport, il reflète cette identité, écrit par exemple Anna qui vit près de Londres. Le retrait de ces mots, Union européenne, c'est une première étape seulement. La deuxième, ce sera à la fin de l'année. Les passeports britanniques vont changer de couleur. Fini le Bordeaux, comme tous les pays de l'UE, retour du bleu. bleu, couleur historique du Royaume-Uni. Et c'est le groupe français Gemalto, spécialiste de la sécurité numérique, qui a obtenu le contrat de la fabrication de ces nouveaux papiers, ce qui a provoqué la fureur de certains partisans du Brexit qui souhaitaient que le marché soit attribué à une entreprise britannique.
Ah, merci Chanel Penier. Le Royaume-Uni qui reste donc empêtré dans les négociations sur le Brexit, une impasse de laquelle le pays doit sortir, selon Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères.
Il est temps que cette situation s'arrête. Il faut que le Royaume-Uni présente un plan. On ne pourra pas vivre dans la perpétuité de la sortie du Brexit. À un moment donné, il y a une sortie. L'Union européenne ne va pas pouvoir en permanence s'épuiser sur les aléas de la politique intérieure britannique.
Jean-Yves Le Drian à l'issue d'une réunion ministérielle du G7 à Dinard. Un professeur de français soupçonné de viol en série sur mineurs a été interpellé la semaine dernière. L'homme est soupçonné d'au moins 50 agressions et ce dans de nombreux pays d'Asie, Jeanne Bergaoui.
Exactement, les enquêteurs tentent de retracer son parcours et ses agissements en Asie, Philippines, Singapour, Inde ou encore la Malaisie où ce professeur de français de 51 ans est expatrié depuis une quinzaine d'années. Pour l'instant, les policiers le soupçonnent d'avoir violé et agressé une cinquantaine d'enfants, notamment en Thaïlande. Début février, il est interpellé en flagrant délit dans une chambre d'hôtel avec deux mineurs. Après quelques jours de détention, il prend l'avion pour la France. Mais entre-temps, l'ambassade et la justice sont prévenus, l'homme pisté. Et il est finalement interpellé le 30 mars dernier à Besançon alors qu'il rendait visite à ses parents. Une arrestation que salue Armelle Le Bigot Maco, présidente de l'association Agir contre la prostitution des enfants.
C'est rarissime qu'on arrive à les attraper. C'est quand même des enquêtes qui sont très difficiles à diligenter. Les preuves, après, sont difficiles à faire parce que localement, les gens ont la trouille aussi de dénoncer. Les familles se rétractent. Et c'est ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont un sentiment d'impunité quasi total.
Cette fois, les enquêteurs ont découvert des dizaines de photos et de vidéos compromettantes à l'intérieur du téléphone du professeur de français. À l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
Jeanne Bergaoui.
La 25e édition du SIDAction et la réouverture du Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux, deux sujets à suivre dans le journal sur Europe 1.
19h06, la suite du journal, Sophie Tussaud, Philippe Bandel.
Ce week-end se tient la 25e édition du SIDAction.
L'occasion de faire un don, mais également de la prévention. Ce matin, Françoise Barré-Sénoussi, prix Nobel de médecine, qui avait co-découvert le virus au début des années 80, et présidente de SIDAction, était l'invitée d'Europe 1. Elle a insisté sur la nécessité de parler du dépistage, mais également des traitements comme la PrEP, un traitement préventif contre l'infection du VIH.
Il y a beaucoup à faire en termes de campagne d'information, de sensibilisation, d'éducation. Il y a aussi une réactualisation des informations parce que parfois, dans les écoles, dans les lycées, il y a une formation, mais on s'aperçoit que cette formation n'est pas réellement d'actualité. Puis, je pense aussi aux médecins généralistes qui peuvent jouer un rôle important lorsque le patient a des questions où c'est que je peux me faire dépister, ben répondre justement à ce type de questions. J'ai appris récemment qu'il y a certains médecins, par exemple, ils n'ont jamais encore entendu parler de la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. C'est les patients eux-mêmes qui leur posent la question « Est-ce que je peux avoir une ordonnance pour la PrEP ?» Et le médecin répond « C'est quoi ?»
Françoise Barré, c'est nous aussi avec Bernard Poiret dans la matinale d'Europe 1 et pour le SIDAction. Un seul numéro pour faire un don, le 110. L'appel est gratuit ou bien sur le site internet don.sidaction.org. Grâce à vous, plus d'un million d'euros ont été déjà récoltés.
Et ce n'est pas terminé. On va prendre maintenant la direction de Bordeaux avec la réouverture du Muséum d'histoire naturelle.
10 ans de travaux dans cet hôtel particulier du 18e siècle. Un chantier à 16 millions d'euros. Aujourd'hui, ce sont 2 300 mètres carré d'espace dévolu au public, plus de 4000 spécimens en permanence. Le musée insiste sur une question qui nous préoccupe tous aujourd'hui. Que veut l'homme pour la nature ? Un reportage à Bordeaux de Stéphane Place.
À l'entrée du Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux, Miss Fanny, imposante éléphante naturalisée au 19e siècle, accueille toujours le public. Les 10 ans de travaux ont permis de rénover, d'étendre la surface d'exposition. Et si les grandes vitrines caractéristiques du lieu ont été conservées, le muséum propose un espace consacré aux déchets plastiques qui polluent le littoral, insiste sur les espèces qui s'éteignent. Fabien Robert, adjoint au maire de Bordeaux.
La destruction de la planète est devenue un tel enjeu que les muséums ne sont plus simplement des lieux qui parlent à nos âmes d'enfants, mais qui parlent maintenant aussi à à l'esprit et à la raison des adultes. On contemple la beauté des animaux qui nous entourent, et en même temps on doit se rappeler que certaines espèces dans ces vitrines ont disparu et d'autres sont en train de disparaître. C'est un lieu qui n'est plus simplement un lieu de divertissement.
22 bornes interactives, un spectacle multimédia immersif, des médiateurs scientifiques sont également présents à chaque étage. La conservatrice du muséum, Nathalie Mémoire.
On invite à en savoir plus pour avoir les éléments pour pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'il faut protéger le vivant ? Pourquoi faire ?
Le muséum de Bordeaux, rénové, espère attirer 60 à 80 000 visiteurs par an et a même créé un espace pour les tout-petits où les moins de 6 ans peuvent se comparer aux bébés animaux. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Si vous avez toujours des cassettes audio chez vous, ne les jetez pas. Depuis quelques mois, elle fait son grand retour. En Normandie, une entreprise relance la production. Beaucoup d'artistes ressortent d'ailleurs leur album dans ce format, comme la chanteuse Björk, qui réédite ce mois-ci toute sa discographie. La cassette qui devient donc un objet de collection pour les fans du vintage. Jean-Gabriel Bourgeois.
Les plus de 30 ans ne peuvent pas avoir oublié ce bruit d'anthologie. Le son du baladeur et de ces mythiques cassettes audio qui font leur retour, plus 20% de ventes aux États-Unis l'année dernière. Un comeback encore timide, mais les amoureux du rétro comme Michael sont conquis.
C'est la Madeleine, la cassette. C'est toujours coloré, ça a une belle forme, il peut y avoir que de la nostalgie. La cassette, le son est pas terrible, il y a un souffle, il faut rembobiner, on sait pas où on va dans les chansons.
Rembobiner avec son doigt ou un crayon, comme le chante en ce moment Calogero.
Les crayons dans les cassettes, je rembobine, tu te souviens.
Christophe Lepreux est le gérant de la boutique La Cuvasson dans le 12e arrondissement de Paris. Il réalise en moyenne une vente par jour et il confirme le regain pour la cassette, y compris chez les artistes.
L'année dernière, il y a eu une cassette d'ACDC de réédité. Cette année, Björk va ressortir ses albums en cassette. Il y a un petit revival, c'est un objet très sympathique. C'est un peu une carte postale, c'est un peu un souvenir. On veut se décrocher du virtuel et on veut revenir à du palpable.
Matérialiser la musique avec le vinyle et la cassette audio, 40 ans tout juste après la sortie du premier Walkman en 1979.
Jean-Gabriel Bourgeois.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie.
Vous êtes bien sur Europe 1, il est 19h11.
Prenons soin de notre voix, la météo c'est avec vous Valérie Darmon. Demain, encore de l'instabilité mais moins qu'aujourd'hui.
Eh bien, de la Bretagne au Massif central jusqu'à la région Occitanie, le ciel sera toujours bien chargé avec des averses tournant à l'orage ici ou là, du côté notamment du Midi Toulousain. La limite puis neige sera autour de 1000 mètres sur le relief pyrénéen, 1000 à 1002 en journée sur le Massif central. En Rhône-Alpes, en PACA et sur le Massif jurassien, les éclaircies vont être rares, entrecoupées d'ondées, beaucoup plus présentes d'ailleurs à partir de notre déjeuner dominical, et la limite puis neige se situera aux alentours de 1500 mètres sur les Alpes. De la Normandie au Grand Est, bassin parisien, centre Bourgogne, Champagne-Ardenne, le ciel sera voilé, a priori sans pluie, sauf peut-être quelques ondées tout de même sur la partie est, un petit peu comme aujourd'hui. Les minimales resteront fraîches, de 2 à 8 degrés, et les maximales s'échelonneront de 12 à 18.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Avec vous, le journal des sports, Jean-François Pérez, rebonsoir.
C'est bien moi.
Bonsoir. Du foot et une sensation pour débuter.
La défaite de Lyon sur sa pelouse face à la lanterne rouge dijonnaise. Score final 3 buts à 1. Les Lyonnais incapables de transformer leurs nombreuses occasions face à de courageux bourguignons et un public frondeur comme jamais. Ça l'après-midi pour l'OL, Anthony Perel.
Oui, énorme surprise avec cette victoire dijonnaise en terre lyonnaise. Dijon, dernier du championnat avant ce match, à la recherche d'un succès depuis janvier dernier, est venu faire tomber l'OL sur sa pelouse, victoire 3-1. Tout avait pourtant bien démarré pour Lyon. Dès la 40e seconde, les choix forts de Genesio étaient payants. Torné à la passe, Terrier à la conclusion pour le 1-0. Deux joueurs préférés à Traoré et Memphis au coup d'envoi. Mais Dijon n'a pas eu le temps de gamberger. Une minute plus tard, Saïd a égalisé après un bon relais avec Tavares. Et dans ce début de match décidément fou, les Dijonais sont passés devant à la 7e minute. Une frappe déviée de Saïd a terminé au fond des filets de Lopez. Lyon a ensuite poussé pour tenter de revenir dans le match. Et sur un contre, Dijon a fait le break sur un but contre son camp de Raphaël. Avec ce précieux succès, Dijon remonte à la 18e place. Lyon, de son côté, rate l'occasion de revenir à un point de Lille, le deuxième.
Qu'est-ce qui va se passer, Jean-François, pour l'entraîneur Genesio ? Hein, racontez, qu'est-ce qui va se passer alors ?
Eh bien, Jean-Michel Aulas vient de s'exprimer. Pour l'instant, pas de décision catégorique sur l'avenir, là, maintenant, là, tout de suite, de Bruno Genesio, qui pour l'instant reste en poste, peut-être jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est une sale après-midi, clairement, pour Lyon. Deuxième défaite de la semaine. Hein.
Comme on dit, plus près de la porte que de l'augmentation.
Ouais, ça, c'est clair. Alors, avec tout ça, Lyon est désormais sous la menace de Saint-Etienne pour la troisième place. Les Stéphanois qui se déplacent à Amiens et il reviendra à 4 points des Lyonnais en cas de succès. Le coup d'envoi à 20h, tout comme Angers-Rennes, Guingamp-Monaco et Nîmes-Caen. On suit évidemment tout cela avec Lionel Rousseau et toute l'équipe dans Europe 1 Sport. Demain, le Paris Saint-Germain qui peut être sacré champion. Et oui, déjà, il faut pour ça que les Lillois ne s'imposent pas à Reims et que les Parisiens l'emportent face à Strasbourg. Coup d'envoi 21h demain soir. On y sera, les Parisiens qui seront privés de Neymar, toujours, Marquinhos et Di Maria. Et puis, vous m'avez demandé de dire que Ben Arfa était peut-être sur le chemin de l'AS Saint-Etienne pour la saison prochaine. Ouais. C'est hypothétique. On en reparle ce soir, évidemment, dans Europe 1 Sport.
On passe au rugby avec un match de prestige en top 14.
21e journée cet après-midi devant 50 000 spectateurs. C'était au Stade Vélodrome à Marseille. Toulon qui n'a plus rien à espérer cette saison. C'est quand même offert le leader toulousain 25-10. Match spectaculaire. Et le tout malgré une deuxième mi-temps en infériorité numérique pour le rugby club toulonnais. Depuis quelques minutes, Grenoble, Stade Français, Bordeaux-Bègles, Perpignan, Montpellier-Agen. Ce soir, Castres-La Rochelle. Et demain, le choc Clermont-Racing.
Le marathon de Paris, c'est dans une semaine. Et la meilleure française n'y sera sans doute pas.
Oui, Clémence Calvin s'est dérobée à un contrôle antidopage au Maroc avec la complicité de son mari et entraîneur. La vice-championne d'Europe de marathon risque 4 ans de suspension. Vous qui nous écoutez, vous serez plus de 60 000 à prendre le départ de cet événement aux allures de phénomène de société. Des millions de Français, vous le savez, Philippe, pratiquent aujourd'hui ce qu'on appelle le running. Vous allez peut-être profiter de ce week-end pour peaufiner votre préparation. Écoutez les derniers conseils de notre coach préféré, Jean-Claude Perrin.
Tout a été fait. On doit avoir confiance puisque le plan d'entraînement à peu près a été respecté. Et peut-être une ou deux séances d'allure moyenne, mais surtout on ne puise pas dans les réserves. On se concentre sur son hygiène de vie, sur son repos. On essaye de ne pas puiser dans les réserves, que ce soit sur le plan familial, professionnel ou sportif. On essaye d'être le plus simple possible. C'est pour ça que cette semaine, ces 7 derniers jours sont si importants pour un marathon.
Voilà, le marathon de Paris versus les Gilets jaunes. Ce sera dimanche prochain peut-être dans les rues de Paris, 42 km 195.
Ouais, et avec Jean-Claude Perrin. Merci Jean-François Pérez. C'était le journal des sports.
Europe 1.
À suivre, 24 000 personnes en France sont séropositifs et l'ignorent. L'épidémie du virus du sida ne recule plus depuis des années. Manque d'informations, banalisation de la maladie, mais également discrimination des patients. Pierre-Marie Girard les suit depuis des années. Il est chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il sera avec nous dans un instant. Il vient même de s'installer dans ce studio.
Il est 19h17, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Philippe Vandel. Et vous le savez, c'est le week-end du SIDAction, on en parle avec votre invité Philippe.
Effectivement, et le bon numéro appelé, c'est le 110. La campagne, vous l'avez dit Marlène, a démarré hier soir, elle s'étend jusqu'à demain dimanche. Bonsoir Pierre-Marie Girard.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Selon un sondage IFOP, 23% des jeunes des 15-24 ans s'estiment mal informés sur le virus. Comment ça s'explique? Alors qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communication, de numéros gratuits, émissions sur le sujet et des réseaux sociaux qui n'existaient pas quand l'épidémie est apparue. Pourquoi ce déficit d'information?
Probablement une moindre mobilisation par la banalisation de l'infection. Finalement, on a l'impression que le problème est réglé. Donc, il y a une moindre motivation des instances. Les instances sanitaires, le ministère, les agences régionales de santé essayent de lancer des messages. Des fois, il y a des barrages sur les messages, parce que c'est des messages qui peuvent déranger. Par exemple, s'intéresser à la sexualité, qui est le facteur numéro un de transmission du virus. Et effectivement, on a un déficit d'information indéniable par rapport à la période des années 90.
Alors, je vais donner des chiffres. 152 000 Français vivent avec le sida. Parmi eux, on estime que 25 000 personnes ignorent qu'elles sont séropositives. Que faire contre ça? Que faire pour ça?
C'est absolument la priorité absolue, puisque ces personnes ne savent pas qu'elles sont séropositives, donc peuvent contaminer d'autres personnes et n'ont pas accès aux soins. Mmh. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et ce chiffre est stable. C'est ça qui est terrible, sur 10 ans, il n'a pas bougé. On n'a pas réussi à diminuer le nombre de personnes.
Alors je veux dire, je suis plus optimiste que vous, parce que je trouve que c'est une bonne nouvelle que savoir que ce chiffre n'augmente pas.
Ah quand même, la stabilité d'une catastrophe est en soi déjà une catastrophe. Quand vous voyez le nombre de personnes contaminées, 6500 actuellement par an, pourquoi ça ne bouge pas avec tous les efforts qu'on a faits? Ça veut dire qu'ils sont insuffisants, et les thérapeutiques qui existent.
Vous avez raison, mais je pense moi juste aux années 80, pour avoir fait les premiers papiers sur le sida, on annonçait une catastrophe, une épidémie, et on donnait des projections absolument alarmantes. Donc je trouve que les progrès qui ont été réalisés, et dont on va en parler tout à l'heure, et dans la vie quotidienne, sont vraiment un réel progrès, et qu'on peut commencer un tout petit peu à sourire, mais c'est pas assez. Alors, il y a eu 5,5 millions de tests effectués l'an dernier en France. La France est un pays qui en fait le plus. Mais est-ce qu'on teste les bonnes personnes? Est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette?
Toute la question est là. Il faut arriver à motiver, parce que les tests sont basés évidemment sur le volontariat. Ce serait l'horreur totale de faire des tests
obligatoires,
systématiques. Évidemment, il en est hors de question. Quelles que soient les circonstances, jamais, y compris pendant la grossesse, on ne doit pas faire de test obligatoire. On doit convaincre la femme enceinte qu'il faut faire un test. Cette situation française, il ne faut pas regretter de faire beaucoup de tests, mais il faut en faire plus et plus ciblés, c'est-à-dire s'intéresser, convaincre les personnes les plus concernées. Et on sait quelles sont les personnes les plus concernées par l'épidémie.
Allez-y.
En premier, les hommes ayant des relations avec des hommes, ça s'appelle des homosexuels, qui sont informés, mais qui probablement n'ont pas une démarche vers le test qui est suffisante. Ça veut dire que la facilité du test, bien que ce soit une réalité, les tests sont plus simples qu'avant, ils sont extrêmement efficaces, ils sont plus accessibles, mais ce n'est pas suffisant. Il faut motiver les personnes sur la perspective du test. Le problème, c'est que lorsqu'on est séropositif, c'est souvent une mauvaise nouvelle et on en a peur.
Quelles autres populations? Tous les articles et les papiers mettent en avant les migrants.
Et oui, c'est une réalité. C'est une réalité puisque l'épidémie actuellement la plus importante est dans l'Afrique subsaharienne et certains pays d'Asie qu'on oublie de temps en temps également. Et donc les personnes qui viennent de ces régions à forte épidémie, forcément la probabilité d'être infecté est plus forte. Ils n'en sont pas responsables, c'est juste qu'il y a une probabilité qui est plus forte, qui est due à l'épidémie. Il y a quand même 36 millions de personnes qui vivent avec le VIH sur la planète.
Et est-ce que là, en plus d'un problème médical, vous ne vous heurtez pas à un problème politique, de politiquement correct? Si on désigne les migrants comme population à risque, on va encore dire qu'on les stigmatise, et non sans raison d'ailleurs.
Vous avez raison, c'est pour ça que là aussi, hors de question de faire systématiquement des tests chez des patients sous prétexte que, par un trajet catastrophique à travers la Méditerranée, vous connaissez tous ces problèmes de migration, eh bien on dirait que dans les centres de santé, on va leur proposer un test. C'est une erreur majeure, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Comment il faut faire?
Eh bien, il faut motiver les personnes, il faut leur faire comprendre que derrière, il y a un débouché thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a la vie derrière, alors que si l'on est séropositif et qu'on se soigne pas, il y a la mort assurée.
Alors, on va parler de la vie derrière, et rassurez-vous, professeur, je vais éluder la question à laquelle vous en avez marre de répondre. Vous avez ras-le-bol qu'on vous demande s'il y a un vaccin contre le VIH et où ça en est. Alors, je vais le dire à votre place, aucune chance que ça arrive, dites-vous, dans les 5 prochaines années. En revanche, il y a une nouveauté thérapeutique qui n'est pas encore très connue, on l'a entendu ce matin chez Bernard Poirette, c'est la PrEP, une petite révolution. Expliquez le principe.
Merci pour le vaccin, ça a été dit. C'est important, c'est important parce que beaucoup de personnes, pardon d'insister, rêve sur le vaccin. On va attendre le vaccin. Après tout, ouais, on va passer à travers les gouttes et puis on aura le vaccin. C'est pas bon. La PrEP, c'est un dispositif simple qui consiste, une pratique assez simple, maintenant parfaitement démontrée dans l'efficacité de diminuer le risque d'acquérir au cours d'un rapport sexuel le virus. Ça consiste à prendre des médicaments qui sont rien de plus que les médicaments qu'on utilise pendant le traitement.
Alors qu'on est en parfaite santé.
En parfaite santé, simplement, on sait qu'on va avoir des rapports sexuels avec des personnes à risque. Il faut reconnaître qu'actuellement, la PrEP est essentiellement utilisée chez les hommes ayant des relations avec des hommes. Les femmes en vulnérabilité, notamment on peut penser à toutes les personnes, toutes les femmes qui ont de multiples partenaires ou qui sont des filles des rues, des prostituées, évidemment elles sont très à risque et elles n'ont pas accès à la PrEP actuellement pour des raisons, parce qu'on ne s'est pas encore mobilisé. Donc ça fonctionne cette PrEP, ça fonctionne et ça évite d'attraper le virus alors qu'on est en contact avec quelqu'un qui est infecté.
Je vais expliciter l'acronyme, PrEP ça veut dire la prophylaxie pré-exposition. Quel taux de réussite?
Tout est dit. Si elle est bien prise, la PrEP, c'est 99% de réussite. C'est extraordinaire. Simplement, il faut la prendre. C'est exactement comme le préservatif. Le préservatif, ça marche très bien, à caution de le mettre. La PrEP, c'est pareil.
J'aimerais qu'on parle d'un sujet dont on parle très très peu et qui vous tient à cœur, professeur, la sérophobie. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est?
La sérophobie, c'est ce rejet, finalement. Comment, 30 ans après le début de l'épidémie, alors qu'on a fait des progrès extraordinaires en termes de traitement, en termes de tests, et qu'on est toujours dans une situation où le fait d'être séropositif n'est pas dissible, on ne peut pas le dire, c'est extrêmement stigmatisant, et les personnes ont peur d'être en contact avec quelqu'un qui est séropositif. C'est un retard sociétal absolument dramatique, et le vécu des personnes séropositives, de ce fait, est extrêmement difficile. On ne peut pas dire sa séropositivité.
Ce qui vous révolte, c'est que les gens ont peur alors qu'il n'y a aucun danger.
Aucun danger. Le danger, c'est lorsqu'on a des rapports non protégés, non protégés ça veut dire également sans utiliser la PrEP dont on vient de parler, avec des personnes séropositives. Sinon dans la vie courante, il y a encore des jeunes, mais même des adultes qui pensent qu'en s'embrassant sur la bouche, vous vous souvenez peut-être il y a 20 ans...
Bien sûr, je me souviens de Clémentine Célarier qui a aussi d'action.
Voilà, et 20 ans après on pense encore qu'un postillon ou embrassé sur la bouche peut donner le sida.
Les patients sont parfois craints, parfois stigmatisés, et dites-vous, même dans le milieu médical qui est pourtant très informé.
Eh oui, eh ben oui, on n'est pas, c'est pas toujours le cordonnier le mieux chaussé. Et,
vous l'avez vu autour de vous.
Et on le voit autour de nous.
Par exemple,
Hier, quand je savais que vous m'invitiez à venir parler du sida aujourd'hui, j'ai interrogé autour de moi du personnel dans le service, où on s'occupe beaucoup du VIH, et j'ai tout simplement demandé à une personne si par exemple elle était amoureuse d'un homme et qu'elle apprenait qu'il est séropositif, qu'est-ce qu'elle ferait ? Là, elle m'a dit, mais je sais, il va être traité, il va avoir un virus indétectable, il n'y aura pas de problème, l'amour va dominer. Déjà, bravo, c'est assez extraordinaire, c'est pas toujours le cas, je peux vous le dire. Il y a des couples où lorsque l'homme est séropositif, la femme séronégative, la femme se contamine, eh bien le jour où l'homme sait que sa femme, alors qu'il est responsable de toute façon de la contamination, il va répudier sa femme directement et la jeter.
Super
élégance. Alors après, cette personne dont je parlais, qui était donc dans un milieu très informé, elle m'a raconté une anecdote. Le jour où son fils de 8 ans s'est blessé à l'école, eh bien l'infirmier de cette école était séropositif, on le savait. Eh bien, il a saigné un petit peu le gamin quand il s'est coupé, et la mère a été inquiète. Tiens, c'est un...
Alors, je vais vous dire, voilà. Les gens qui nous écoutent, qu'ils soient chez eux, qu'ils soient en voiture, ils entendent cette anecdote, ils sont eux-mêmes inquiets, rassurez-les.
Exactement. Il n'y a pas de contamination dans ces conditions. Les seules conditions de contamination, c'est la transmission de sang, donc la transfusion sanguine est une sûreté absolue maintenant en France. Deuxièmement, la transmission de la mère à l'enfant au fœtus, on arrive à prévenir complètement en traitant la femme avec des antirétroviraux. Et troisièmement, ce sont les rapports sexuels intimes, pénétration.
Mais en gros, la transmission avec le sang, il faut une seringue.
Évidemment, il faut un volume. Même lorsque les infirmières, nous nous blessons par exemple, on prend tout de suite un traitement post-exposition, c'est l'inverse de la pré-exposition, pour éviter absolument d'être contaminé.
Alors j'ai trois choses à dire. SIDAction, pour faire des dons, c'est le 110. SIDAction.org, c'est très bien fait, le site internet. Et pour toute question de quelqu'un qui voudrait connaître quelque chose à ce sujet-là, SIDA Info Service, c'est un numéro gratuit. 0800 840 800, on peut pas faire plus simple. 0800 840 800. Merci beaucoup Pierre-Marie Girard. Je rappelle que vous êtes professeur, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1.
À suivre notre page culture comme chaque samedi, le cinéma avec Mathieu Charrier, Geffrotin nous fera découvrir un pianiste d'exception, Thierry, croisière sur le Nil avec Vanessa Zah, et puis le tout en compagnie de Jérôme Commandeur. Je peux vous dire, on a pleuré de rire en enregistrant cette séquence. À tout de suite.
19h28, on va parler culture dans votre grand journal du soir, Philippe Vandel.
La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Mathieu Charrier, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Notre monsieur cinéma Vanessa Zah, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez en Égypte, si j'ai bien compris. Thierry Geffrotin, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Vous êtes venu avec un piano et notre invité que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, Jérôme Commandeur, bonsoir Jérôme.
Bonsoir à tous.
Je dis ça, je parle au passé car vous étiez dans la matinale, la saison passée tous les jours à 7h25. Je précise que vous n'avez pas été viré, c'est vous qui avez demandé à partir pour faire
ça, c'est la
votre
officielle.
Retour sur scène. Mais oui, il faut le dire. Il y a une tournée dans toute la France et là, Jérôme, vous êtes désormais au Casino de Paris. Le spectacle s'appelle « Tout en douceur ». Que veut dire ce titre ? Veut-il dire d'ailleurs quelque chose ?
Ah ben c'est pas con, non mais c'est bien de faire des titres qui veulent rien dire. Non, ouais. Oui, j'aimais bien l'idée de la bienveillance, l'idée du cocooning, etc. Et ce qui me permet d'envoyer un peu une fausse piste parce qu'à l'intérieur, quand on voit le spectacle, c'est beaucoup plus trash. Et visuellement, si les gens veulent voir, c'est un pull, c'est une parodie des pulls un peu.
Le ciel.
Ouais, voilà.
Pull marine,
exactement.
La pub Woolite, pour pas la citer.
Exactement, des années 80.
Voilà. C'était votre rêve secret. De mettre ce genre de pull.
De mettre un pull.
Ouais, et d'avoir le droit.
Non, c'est que souvent dans la rue, on me dit, on me confond avec Isabelle Adjani.
Oui. Ouais. Au niveau des cheveux surtout. Hein.
Ouais. Les cheveux et de la taille. Et non, c'était un petit clin d'œil aux années 80. Mais en revanche, j'aime bien l'idée, pour parler du spectacle, de dire des choses un peu hard, un peu trash, qui viennent un peu bousculer les gens dans une enveloppe un peu chic, un peu jolie. Ça, j'aime bien.
Alors, j'ai eu la chance de voir le spectacle. Vous dites un peu trash, parfois c'est très trash. Sur les Vosges, quand même, vous y allez vraiment très fort.
Oui, alors je ne peux pas expliquer pourquoi.
Non, on ne peut pas le dire. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. Mais quand vous y allez tellement fort qu'avant de faire sa minute et demie sur les Vosges, il fait 5 minutes de préparation du public.
Oui, je prépare. En fait, c'est marrant, c'est la technique du lance-pierre, en fait. C'est-à-dire que je prépare tellement les gens, je les fais tellement monter en mayonnaise, quoi, qu'ils se disent mais c'est pas possible, où est-ce qu'ils nous emmènent, et puis paf, je lâche après les cartouches, et les gens sont un peu terrassés de ce qu'ils viennent d'entendre. Mais j'adore ça parce que je trouve, c'est une question qu'on nous pose souvent dans le rapport que les gens ont avec le spectacle, c'est un des rares espaces non médiatisés, c'est-à-dire que il y a pas d'enfants qui crient, on est dans le noir, il y a pas de téléphone, on ne filme pas, alors qu'aujourd'hui il y a des caméras partout. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce truc très jouissif, très libérateur, d'aller très très loin. Mais en revanche, j'aime bien qu'on ressorte quand même ensemble. C'est-à-dire, j'aime bien le côté un peu une tape, une caresse. C'est-à-dire, j'aime bien que ça aille très très loin et en même temps qu'à la fin, il y ait quelque chose de bienveillant.
Et je précise qu'évidemment, les gens ont choisi d'aller vous voir et c'est pas comme quand on arrive dans la cuisine, dans le salon des gens, à la télé.
Évidemment.
Les gens, c'est public. Juste une question, est-ce que vous avez joué ce passage à Épinal dans les Vosges ?
Alors, je me suis approché. Je l'ai fait à Mulhouse. Ouais. Je l'ai fait à Nancy. Je vous jure que c'est vrai en plus. Mais. Je n'ai pas poussé plus loin. Pour des raisons de sécurité.
Vous faites des références à l'actualité immédiate ?
Assez peu, parce que là, oui, il y a quelques phrases sur les gilets jaunes, parce qu'évidemment, ça
Ah non, ils sont drôles. Ah non, vous racontez, c'est plus que l'actualité, vous racontez les gilets jaunes, vous les imaginez en Corée du Nord.
Non, mais. Ouais, ça ne durerait pas très très longtemps. Mais. Non, je dis, c'est que, évidemment, la base du mouvement des gilets jaunes, le fait de ne pas pouvoir arriver à finir son mois, c'est d'une violence inouïe, et que ça, c'est éminemment respectable, mais que c'est tout ce qui, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est tout ce qu'il y a autour, les vandales, les dingues. L'autre jour, j'ai vu, effectivement, je raconte ça, j'ai vu sur internet, mais c'est vrai, enfin, et de le raconter sur scène, on se dit mais c'est pas possible, ça. Il y avait un militaire 70, 75 ans en retraite, et puis le type il dit, si les gilets jaunes sont d'accord, je veux bien remplacer Macron.
J'ai vu cette vidéo. Puis il a une sacrée tronche en plus.
Voilà. Et donc le type était sur son fauteuil Everstill, comme ça, avec le risotto de sa femme qui cuit derrière. Le chien qui se lèche les bouliches devant Question pour un champion. Et lui, il est là, la pipe au bec avec son. Et voilà. Et ça m'intéresse parce que des dingues, c'est toujours, c'est toujours propice à la comédie.
Puisque vous parlez de Question pour un champion, vous défouraillez contre la télé et c'est très très drôle.
On a perdu Jérôme.
Ouais,
il s'attendait pas à ce mot du tout.
Il s'est étouffé avec son café.
Par exemple, j'avais jamais vu des choses comme ça.
Mais qu'est-ce que c'est que ce verbe ?
Vous allez comprendre.
C'est une expression des années 70.
Il avait vu. C'est mon monde. Vous savez qu'il y a des gens qui vont voir. Au fait, votre spectacle est joué en matinée.
Oui.
Ah d'accord. Voilà.
Non, il faut expliquer. La matinée, c'est 17h. Voilà. Pour les dans le jargon du théâtre.
Voilà. Donc c'est pour les gens des années 70.
Je vais sortir.
À quelle heure vous allez au théâtre, vous, Thierry ?
Bon, moi, les captations, comme je dors pas la nuit, je sais du replay.
Je ne verrai plus jamais 14. Les émissions d'M6 et les magazines comme Capital après vous avoir vu. Alors, racontez la structure de ces magazines.
Oui, non, parce que je suis fasciné. En fait, je parle des gens qui se font escroquer en vacances et qui vont ensuite chialer dans Capital. Il y a une bonne femme, elle dit « Ah, mais j'ai fait une semaine à Gerba, tout compris, à 89€, avion plus hôtel. » Je dis « Oui, c'est même pas le prix du taxi pour aller à l'aéroport. »
Non mais ce que vous racontez, c'est qu'il y a une structure géniale, je l'ai jamais vue. Il y a des reportages pendant une heure et demie, et à la fin t'as 20 minutes des gens qui se font arnaquer. Le mec, ce que raconte Jérôme.
Oui, il y a un Capital sur. Tu fais une heure et demie sur les bigoudis chauffants, et à la fin t'as 20 minutes sur une vieille qui s'est quand même fait cramer la gueule par deux bigoudis, qui a plus de cheveux.
Comme vous.
Que tu vas interviewer et qui tient son œil dans sa main, on dirait Albator. Et donc voilà. Je raconte ça, mais j'aime bien. Alors, j'aime pas trop le terme d'actu. J'aime bien l'idée de l'ère du temps, c'est-à-dire que effectivement, en ce moment, c'est la violence sur les réseaux sociaux. Ça peut être les témoignages à la télé. Dès qu'on allume la télé, il y a un témoignage. Voilà, j'aime ce qui fait un peu l'époque. Quoi.
Et puis alors, j'ai découvert quelque chose. J'ai vu cette émission. Je l'ai vue très souvent, mais je l'avais jamais vue comme vous. La vieille qui vient vendre sa flûte.
Ah oui, non, chez Sophie d'avant. Oui, je dis non parce que je dis il y a des profils de candidats ou de témoins, on va dire, par chaîne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on a plutôt l'habitude, dont les profils se retrouvent plutôt sur TF1, M6 c'est les cadras, et je dis France 2 c'est les vieux, ils ont pris un truc, ils adorent les vieux, faut s'occuper des vieux parce que je sais pas, ça sent bon, ça sent l'eau de Cologne, je sais pas quoi. Et je dis notamment toi t'es à 15h, t'es là, puis il y a une vieille qui va vendre une flûte chez Sophie d'avant. Bon. Parce que la flûte elle est sur la table de chevet, elle sert plus. Alors la vieille elle dit voilà, j'arrive plus à souffler, dedans, j'ai plus de souffle. Alors Sophie d'avant, elle est là, bon, elle en a rien à foutre. Elle dit oui, mais c'est qu'une flûte. Bah oui, oui, je viens vendre une flûte, donc c'est qu'une flûte, c'est sûr. Et puis il y a une autre vieille derrière qui s'y connaît bien en flûte, qui elle dit bah je vais l'acheter 10 balles. Alors la première vieille qui vient vendre la flûte, bah elle est contente, elle rentre chez elle avec ses 10 balles. Puis les gens regardent ça, et puis alors, c'est pas du grand spectacle. On n'est pas à Hollywood, mais...
Mais ça cartonne surtout.
Ouais, ouais, voilà,
ça marche,
ça
marche très bien.
Oh mon Dieu, j'en ai les larmes aux yeux. Il s'appelle Jérôme Commandeur, ça s'appelle Tout en douceur, c'est au Casino de Paris. Reste avec nous, avec Vanessa, avec Thierry, avec Mathieu Charrier, juste après ça.
Il est 19h38, on retrouve tout de suite Philippe Vandel, ses chroniqueurs, son invité.
Suite de la demi-heure culturelle avec Mathieu Charrier, Vanessa Zah, Thierry Geffrotin et notre invité Jérôme Commandeur. Son spectacle, ça s'appelle Tout en douceur et c'est au Casino de Paris tous les soirs à 21h, matinée le samedi, c'est à 17h. Vous n'aimez pas les gens qui disent c'était mieux avant?
Ah oui, c'est insupportable. Mais non, j'ai remarqué parce qu'on vit en France dans un truc très 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 passéiste, on est... Enfin, quand même, on a un goût pour les morts. Enfin, c'est ouais. Fou, quoi. Il y a un truc. Tu peux pas allumer une télé sans qu'il y ait Joe Dassin, Balavoine, Dalida, Clo-Clo. On a l'impression qu'ils sont là, qu'ils sont vivants, qu'ils sortent des nouveaux albums. Enfin, c'est un truc. Et c'est vrai que.
Ouais, mais quand même, vous faites référence au 14e siècle. Évidemment. Bah, on vit mieux qu'au 14e siècle avec les cochons dans la rue.
Oui, bah voilà. Non, mais c'est ça. Non, mais parce que il y a une petite dame l'autre jour, mais c'est tout le temps. C'est des phrases. On se baigne. On les entend même plus tellement elles nous sont familières. Mais il y a une dame l'autre jour, elle me dit, on a bien besoin. Merci de nous faire sourire, on en a bien besoin, surtout en ce moment. Je dis, bah oui, bah, tu crois pas qu'au 14e siècle, à l'époque de la lèpre, quand les doigts des gens tombaient comme des poires pourries, tu vois, le gars qui avait une bonne blague carambar entre les doigts, il la lisait, ça ressoudait le groupe.
Et c'est vrai, et j'avais pas fait attention à cette phrase, on est le seul pays où les gens se disent bon courage.
Bon courage.
Comme si on allait tous à l'abattoir.
Mais comme si on allait crever, quoi.
Mais oui.
T'es là, tu sais pas, tu t'as ton pain, tu rentres chez toi, la boulangère, bon courage. Mais je dois traverser la rue, prendre l'ascenseur. Je dis, on n'est pas au Botswana, tu vois, on doit pas faire 1000 bornes à poil avec un étui pénien et deux chèvres pour échapper au typhus. Non mais, courage, c'est fou ce truc de bon courage.
Vous saluez le fait, la chance qu'on a de vivre en France avec cette liberté de parole assez inouïe. Il y a peu de pays dans le monde qui ont ça, mais également vous en critiquez l'abus parce que tout le monde donne son avis sur n'importe quoi. Et j'ai pas pensé à ça. Les gens, il y a des groupes de parole sur tout et n'importe quoi.
Exactement, ouais, les forums, je trouve ça fascinant. Je dis, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse s'exprimer, ce qui est formidable, qu'on doit forcément s'exprimer. C'est-à-dire que si un jour on a un truc à dire, on le dira, mais si on n'a rien à dire, il faut surtout bien fermer sa gueule parce qu'on n'a rien à dire. Et effectivement, il y a des forums sur les croquettes pour chiens. Je dis, à quel moment tu te lèves le matin en disant, faut vraiment que j'aille donner mon avis sur les dernières froliques parce que je sens que là, la France part à volo. Quoi, voilà.
Mais ça existe vraiment.
Mais bien sûr qu'il y a des forums sur les
croquettes. Mais l'inverse, forums, c'est vrai. On a besoin d'aller voir sur les forums quand on va acheter quelque chose. Maintenant,
exactement.
On a pris l'habitude d'aller voir ce que les gens pensent, tout en disant c'est débile de dire ce qu'on en pense. C'est une espèce
qui
de...
est allé au Nicaragua en octobre?
Ouais, c'est ça,
une meuf, bah moi, c'est pas mal.
C'est exactement ça.
Vous savez qu'il y a même des forums sur le cinéma. D'abord, j'ai parlé avec vous, Mathieu Charrier.
Professionnel de la transition.
Je m'étais mis un post-it.
C'est bossé.
Je m'étais mis un post-it et pour pas faire jaloux aujourd'hui, Mathieu Charrier.
L'homme transition.
Vous nous conseillez un film d'animation, tout est dans l'addition, qui s'appelle Le Parc des Merveilles.
Oui, est-ce que vous vous rappelez ce que vous aviez vu il y a quelques années, Vice Versa, le magnifique film des studios Pixar? Voilà. Qui nous plongeait dans les émotions, la tête d'une petite fille à travers ses émotions. Philippe me regarde avec des grands yeux.
Moi, ça ne me dit rien, mais ça parle beaucoup à Vanessa.
Oui, bon, le Parc des Merveilles, on va dire que c'est un peu la même chose, mais dans un univers un poil différent. Je m'explique. Il y a une petite fille qui s'appelle June. Vous savez, petite fille parfaite, limite énervante, hein, sage, gentille, très mignonne. June construit avec sa maman son parc d'attractions rêvé dans sa chambre avec tout un tas de manèges en petites maquettes. Elle construit ça. Vraiment, c'est le parc dans lequel petit et grand aimerait passer un week-end. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où cette maman tombe malade, elle doit quitter la maison pour partir se soigner, et elle laisse donc notre petite June dans le désarroi.
Et c'est là que la petite fille atterrit dans le Parc des Merveilles.
Exactement, ce parc imaginaire va prendre vie dans son imaginaire, bien sûr, mais elle va s'y retrouver plongée, projetée avec des animaux chargés de sauver ce parc en décrépitude et qui représentent chacun un trait de caractère de June extrait.
Et si le parc de vos rêves...
Je suis dans le Parc des Merveilles.
Devenait réalité.
Sauf qu'il peut ! Il y a un humain dans le parc !
On se carapate, on se carapate, ralalala.
Bon, allez, on se calme. Je m'appelle June. J'ai inventé le parc des merveilles quand j'étais petite.
Pourquoi tu as choisi un porte-pic pour assurer la sécurité? Aux abris, tous aux abris.
J'ai l'impression de m'être engagé dans une impasse.
Arrière toute.
Pip, pip.
Voilà, ça c'est le radar de recul, vous savez, dans les voitures. Vous entendez, ça va être le début d'une grande aventure pour June avec de méchantes petites peluches en forme de singes qui veulent tout détruire. Ça s'appelle les chimpans cinglés et ses amis des animaux qui vont le défendre.
À part le fait d'être un jeune papa, Mathieu, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film d'animation?
Déjà ça, c'est voilà. Déjà pas mal. Ouais. Les dessins, c'est pas mal aussi pour un film d'animation. Ouais. Des dessins assez ronds qui sont très colorés. Et puis il y a une vraie aventure avec plusieurs niveaux de lecture. C'est ce qu'on aime dans l'animation, dans ce genre de film. Les personnages sont loufoques, attachants, notamment l'ours narcoleptique, dont la voix française est assurée par Marc Lavoine.
Oui, il est narco, bon, il dort, il s'endort dès qu'il a un peu la trouille, on dirait. Il choisit bien ses moments, et puis il est trouillard, il a peur, il est gourmand, il a plein de défauts. Mais l'enfant, cette petite fille, lui redonne du poil de la bête. On a l'impression, faut jamais vendre la peau de l'ours, et on a l'impression qu'à travers elle, quelque chose de plus grand est en train de se faire, est en train de se produire pour tous les animaux qui sont sacrément presque plus humain que nous-mêmes.
Voilà, des animaux plus humains que nous-mêmes, c'est aussi la force de ce film. J'irai à partir de 6-7 ans,
excusez-moi,
si vous voulez emmener vos enfants.
Il y a Vanessa qui se sent pas bien à écouter la voix de Marc Lavoine. Oui, je l'ai vu suer de la tempe.
Comprenez-vous, Vanessa.
Du cuir chevelu.
Voilà, Parc des Merveilles, 6-7 ans, vos enfants, vos petits-enfants, c'est en salle.
Et une fois des pas coutumes, Mathieu, vous vouliez nous conseiller un film à regarder chez soi ce week-end.
Très rapidement, Amanda, qui vient de sortir en DVD et VOD. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, Jérôme, porté par Vincent Lacoste, qui était notamment nommé au César pour ça. On en avait parlé sur l'antenne. Il doit s'occuper de sa petite nièce, orpheline, après que sa sœur ait été tuée dans un attentat. Pour moi, c'est le film de la génération Bataclan. C'est saisissant. Vraiment, prenez le temps de le voir ce week-end, vous savez, sur votre box, en quelques clics, c'est facile, ça s'appelle Amanda.
C'est votre avis, Mathieu Charrier. Et alors, je me souviens d'une interview de vous, Jérôme Commandeur, dans laquelle vous critiquiez, avec humour, mais quand même vous critiquiez, les étoiles sur ces sites, oui. Sans les citer, Allociné, qui donnent des notes au film. Le type, ils sont critiques, comme moi, je suis dentiste.
Oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire que... Mais en fait, c'est l'époque qui veut ça, et puis c'est un changement de mode de pensée, c'est-à-dire que c'est pas... ce site-là qu'il faut critiquer, et puis moi j'y vais, etc. Mais c'est vrai que quand on se prend des mais c'est le principe, des leçons de cinéma par des gens qui disent que voilà, votre film est à chier ou je sais pas quoi, et que vous sortez de 5 mois de tournage où vous avez dû gérer des équipes et vous étiez vraiment les mains dans le cambouis, il faut accepter voilà, que l'époque change, qu'elle évolue et que maintenant ça se fait comme ça. Mais je pense qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans, quand il y avait juste un critique cinéma roi dans Paris et que les distributeurs ou les réalisateurs ou les comédiens attendaient mercredi midi pour avoir sa critique, je pense qu'ils avaient la même paire de boules.
Il était détesté, Mathieu Charrier.
Non, mais surtout maintenant les distributeurs en jouent de ces sites, c'est-à-dire qu'il y a même parfois des faux avis, des fausses notes, on voit des films qui sont des espèces vraiment de films complètement ratés qui se retrouvent avec 4 sur 5 sur Allociné.
Mais...
Et il y a maintenant des sites qui eux-mêmes font la vérification des notes sur les autres sites qui disent non mais regardez, c'est que des faux comptes, il y a des entreprises spécialisées là-dedans, mais des boîtes de marketing, vous pouvez payer 1000 avis positifs sur Allociné, ça vous coûtera tant.
Sur les hôtels et les restaurants, c'est pareil.
Exactement
hein.
Pareil.
Moi, mon frère, qui, excusez-moi, journaliste, mais Non, mais je vous le dis.
Moi, j'ai ma belle-sœur qui est sur Niort, vous savez, la ville des assurances. Elle bosse à la Maïf. Elle est très bien, elle est très contente. Avant, elle était chez AXA, puis ça se passait pas bien.
Ma petite belle-fille aussi.
Il avait créé, justement avec l'équipe de France 2, ils avaient monté un faux restaurant. Et au bout de 5 jours, sur TripAdvisor, il y avait 5 étoiles. Le restaurant n'existait pas. Il n'y avait rien à ce numéro-là, c'était à Montmartre. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont, quoi.
Mais vous savez, Vanessa Zaza, c'est la nouvelle Élise Lucet. Je crois beaucoup.
On mise sur elle. On va l'entendre, elle vient de se prendre un coup de micro dans l'œil. On se retrouve tout de suite après ça, un tour à l'infirmerie. A tout de suite les amis.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1, il est 19h47. On retrouve tout de suite Philippe Vandel.
Suite et fin de cette demi-heure culturelle du 18-20 avec Mathieu Charrier, Vanessa Zaza, Thierry Geffrotin et notre invité Jérôme Commandeur pour son spectacle Tout en douceur. C'est tous les soirs à 20h, au Casino de Paris. Thierry Geffrotin, un autre genre de spectacle, c'est une légende du piano dont vous allez nous parler maintenant. Il va se produire mercredi prochain à la Philharmonie de Paris. Il s'appelle Andras Schiff, la reine d'Angleterre l'a anobli pour ses services rendus à la musique, vous dire l'importance de l'artiste. Et vous avez rencontré cette légende à Londres, Thierry. La légende, c'est pas la reine d'Angleterre, c'est le pianiste.
Oui, bien joué. Ouais, alors on va écouter Andras Schiff parler dans quelques instants, mais d'abord on va l'écouter jouer.
Oh.
jouant du Brahms. Alors que les choses soient claires...
C'est pas J'ai du bon tabac ?
Non, pas tout à fait. C'est pas de la même époque. Alors que les choses soient claires, sur la planète piano, les artistes excellents, les très bons, les très doués ne manquent pas. Mais les pianistes de l'importance d'András Schiff se comptent vraiment sur les doigts d'un pianiste, d'une seule main d'un pianiste. Tout ça pour vous dire qu'assister à un récital de cet artiste, et ça sera donc mercredi prochain à la Philharmonie de Paris, c'est un moment rare, vraiment un moment rare.
Et alors en fait, de moment rare Thierry, vous avez rencontré le maestro Eurozone.
Eh oui, alors András Schiff n'était pas devant un instrument, pas devant un piano, mais quand il parle de musique, c'est déjà une leçon de musique, une leçon de vie. Alors question, parce que je suis sorti du programme, hein, on a envie de l'entendre sur des tas de choses, András Schiff, pas seulement sur ce qu'il va jouer. Le matin, quand il se lève, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il joue ? Et il vous répond, du Bach, ou comme il dit, du Bach.
Je commence chaque jour avec Bach. Minimum une heure de Bach pour commencer. Après le petit déjeuner, sans café, ça ne marche pas. Mais après une tasse d'espresso, je joue Bach. Et pour une satisfaction absolue, commencer avec Bach, c'est une joie de vivre.
C'est Roland Giraud dans Papy fait de la petite
histoire. Ah, pas mal, ouais. Non, c'est András Schiff. Je tiens à vous le dire, c'est vraiment András Schiff.
Deux expressos du bac, donc la journée peut commencer pour lui. Il sera en concert mercredi prochain à la Philharmonie. Que va-t-il jouer ?
C'est un programme très varié. Il va jouer du Mozart, du Brahms, du Schumann, du Beethoven, du Bach. Bach, c'est son chouchou, hein, je dois le dire. Un programme varié. Ce programme, il l'a conçu, pensé comme un cadeau pour le public. Je pense que ça va intéresser Jérôme d'entendre ce que dit András Schiff à propos du public et des ondes qu'il dégage.
J'adore le public et... Pour moi, un concert est comme un cadeau. Avant les premières notes, je sais déjà, c'est un public magnifique ou c'est un public antipathique. Aussi, quand c'est un public moins sympathique, je dois essayer de changer le public. Quelquefois, c'est très difficile.
Donc, le choix de la première pièce d'un récital est très important.
Oui, absolument. La première note est très importante.
András Schiff, pianiste de légende, je tiens à le
si
dire vraiment.
Si le public n'est pas gentil, je le punis.
Ah, comme vous êtes, Jérôme. Et je vous invite, on ira tous les deux écouter András Schiff à la Philharmonie à mercredi 14. Prochain. Vous verrez, c'est un pianiste hors pair.
Merci beaucoup Thierry Giffrotin. Dans un sketch, je ne peux pas tout raconter, mais vous imaginez vos obsèques, il y a du piano.
Oui.
Et vous dites... Je ne sais plus ce qu'il dit.
On a perdu encore.
On a perdu c'était Jérôme Commandeur.
C'était sur András Schiff.
Jérôme Commandeur, vous restez avec nous, mais là on va partir avec vous, Vanessa Zah, l'Égyptomania est de retour. Le succès de l'expo Toutankhamon est un tel carton que vous avez choisi de nous emmener en Égypte.
Puisqu'on embarque aujourd'hui pour faire un voyage tout en douceur, Jérôme, on part en croisière. C'est la meilleure manière de comprendre, de s'imprégner de toute cette civilisation. C'est un peu comme si vous étiez assis là, dans un fauteuil, dans une salle de cinéma. Et là, des siècles d'histoire défilent devant vos yeux comme un film. En fait, il faut imaginer que d'heure en heure, les palmiers deviennent des roseaux, les montagnes, des dunes. Et puis d'un seul coup, vous avez un temple qui surgit dans un cadre, dans une lumière très particulière, toujours très dense, très dorée. Et honnêtement, ça vous laisse sans voix. C'est là que vous faites un bond de 5000 ans dans le passé. Et puis surtout, vous vous sentez bien, bien minuscule devant autant de fastes.
Et alors, où est-ce qu'on embarque ? Au Caire ?
Non, ça n'a pas d'intérêt en fait, de commencer la croisière depuis le Caire. Il n'y a justement rien à voir en fait, sur ce tronçon. Donc on visite le Caire et après on file sur Louxor, on embarque, on remonte le Nil vers le sud, la Haute-Égypte, et là on passe devant tous ces temples que vous connaissez bien de nom, oui. Ceux qui font rêver, Esna, El Kabet Fou, Komombo, et puis on arrive forcément à Assouan. Et là, Assouan, c'est vrai que c'est un choc pour tout le monde. Alors pourquoi ? Déjà parce que c'est la ville la plus calme d'Égypte, la plus métissée surtout avec les Nubiens. Et puis tout simplement parce qu'elle est spectaculaire, elle est contrastée. Il y a du granit, de la verdure, des dunes de sable. Et en plus, vous avez les pieds dans l'eau au bord des rapides, ce qu'on appelle la cataracte. Donc la cataracte, évidemment, aucun jeu de mots s'il vous plaît sur la cataracte de l'œil. Cette cataracte, on la doit à quelqu'un. Alors on va voir si vous êtes fort en histoire. À qui on la doit cette cataracte ? Rappelez-vous le programme donc d'histoire, géographie, d'égyptologie ? Non ?
À une femme.
Bingo, à une déesse Isis, l'épouse d'Osiris quand il était assassiné. Elle s'est transformée en oiseau pour fuir loin jusqu'à se poser sur une île au sud, l'île de Philae. Elle a tellement pleuré que c'est là que s'est formée la cataracte et qu'a eu lieu la première crue du Nil. Cette île de Philae, les amis, c'est un joyau. Moi, j'en ai toujours des frissons quand je vous en parle et pourtant, ça fait longtemps que je l'ai vue, il y a 25 ans. La première fois, il faut la découvrir le soir à la lampe torche sur une felouque. C'est complètement féerique. Pour vous montrer à quel point elle fascine cette île, il faut savoir que lorsque les soldats de Napoléon y sont arrivés, ils ont carrément déposé leurs armes, tellement ils étaient émus par tant de beauté. Résultat, ils l'ont surnommée la perle de l'Égypte, alors qu'ils avaient quand même déjà traversé toute l'Égypte. Donc ils en avaient vu des choses depuis Alexandrie.
Et alors on a parlé d'un bateau, sur quel bateau vous nous faites-vous voyager?
Alors moi je vous en ai choisi trois pour trois ambiances différentes et trois budgets différents. Si vous avez envie de réveiller un peu votre côté Hercule Poirot, Agatha Christie et revivre l'atmosphère du bateau de Mort sur les Nil, vous pouvez partir sur le Steamship Sudan de Voyageurs du Monde, donc un bateau à vapeur.
Steam.
Voilà, donc le Steamship Sudan, ça on casse la tirelire évidemment, mais ça vaut le coup. Si vous voulez plutôt titiller votre ego de pharaon, vous embarquez avec Voyage Pharaon, puisque vous partez en Dahabia. C'est une grande felouque aménagée. Il y a seulement 20 cabines et elle rappelle celle du 19e siècle qui était toute sublimement décorée et dorée. Voilà, ça c'est 1690 euros quand même la semaine. Et puis après, bah, si on veut être raisonnable, mais se faire plaisir quand même, il y a Aya Désir d'Orient qui vous propose 799 euros un séjour en bateau classique, mais avec un guide égyptologue et archéologue comme tous les autres.
Merci beaucoup Vanessa. Juste une question en sécurité. C'est risqué, c'est dangereux l'Égypte, on peut y aller?
On est en plan vigilance, donc on reste quand même ouvert. On écoute évidemment les consignes de sécurité en fait, des autorités locales. On ne s'éternise pas dans les lieux hyper fréquentés. Là où je vous ai emmené entre Louxor et Assouan, on est en vigilance point. Toutes les autres zones, évidemment, sont déconseillées ou formellement interdites.
Merci beaucoup, Vanessa Zah. Jérôme Commandeur, j'ai vu à votre regard que vous aviez une question pour Vanessa.
Je voulais savoir qu'elle me confirme bien que la felouque.
Donc, c'est ces petites embarcations sur le Nil que vous voyez. Normalement, il y a 2-3 personnes. Mais là, c'était les grandes felouques, les Dahabia, en fait, où les pharaons, justement, s'installaient pour voyager et partir, en fait, de capitale en capitale.
Quand on écoute cette émission, on se couche moins con.
Surtout vous.
Notre pharaon du jour, c'est Jérôme Commandeur. Ça s'appelle Tout en douceur. C'est au Casino de Paris. Merci Vanessa Zah. Merci Mathieu Charrier. Merci Thierry Geffrotin. Quel plaisir d'être avec vous chaque semaine.
Europe 1.
Et dans un instant, sur Europe 1, un autre plaisir, on va retrouver Europe 1 Sport avec Lionel Rosso. Salut Lionel,
salut,
bonsoir.
Salut Philippe, bonsoir à tous.
Alors, dis donc.
Oui, dis-moi.
L'OL, l'OM, lequel est dans la plus mauvaise position?
Difficile à dire. Je ne vais pas faire une réponse de Normand, je pense que c'est Lyon, parce que battu par Dijon 3-1, c'est-à-dire la lanterne rouge cet après-midi, il semblerait que ce soit Lyon qui soit plus en difficulté.
Je vais résumer pour les gens qui ne suivent pas le football. Lyon a perdu, c'est le bordel. Marseille a perdu, c'est le bordel.
On va tout vous expliquer
à partir de 20h. Exactement, et vos analyses. Nous, on se retrouve demain à 18h. Salut Marlène.
Salut Philippe, à demain.
Bonne soirée à l'écoute d'Europe 1.